Voilà, donc c'est la 7e séance des réflexions sur la tolérance. Florent Bussy, sur la question du totalitarisme. Le titre, le totalitarisme comme fantasme d'une unification totale de la société et de disparition des différences individuelles. Voilà.
Bien, merci Didier. Donc d'abord merci à Didier et à son association de me recevoir au Havre. Je suis très content d'être là parmi vous. Je vais vous exposer donc quelque chose qui concerne cette notion de totalitarisme. Le titre peut paraître un petit peu compliqué. En fait, vous verrez que ça l'est pas forcément, que j'ai fait la notion de fantasme, quelque chose d'assez central pour comprendre cette idée de totalitarisme. Alors, Didier vous a envoyé un plan, ce sera le plan du travail, tel que je le suivrai. À chaque fois, vous voyez qu'il y a des textes qui sont indiqués. Certains, je les lirai en partie, d'autres peut-être de manière plus exhaustive. On verra aussi en fonction du temps comment ça avance. Une petite introduction pour commencer. Je vais dans ce travail en fait exposer les choses selon deux moments. Un premier qui sera plus de nature historique et l'autre qui sera davantage de nature philosophique. La notion de totalitarisme, c'est une notion qui évidemment se rapporte à l'histoire des régimes politiques. Il ne s'agit pas de construire une théorie abstraite et philosophique du totalitarisme sans parler d'éléments historiques, sans parler des événements eux-mêmes. Il m'a semblé, tout le travail que j'ai mené il y a déjà longtemps sur cette question, j'ai toujours voulu l'inscrire dans le cadre d'un travail sur des données historiques. Donc au point de départ, l'ambition que j'aurai devant vous, c'est de justifier l'existence même de cette notion de totalitarisme et seulement dans un deuxième temps d'essayer d'en dégager la signification philosophique ou anthropologique. Dans ce premier moment, il s'agit de savoir de quoi il s'agit quand on parle de totalitarisme. Qu'est-ce que c'est ce phénomène? Pour quel type de régime est-ce qu'on emploie ce terme et quels sont les critères qu'on peut retenir concernant ce type de régime politique? Comment identifier donc un tel phénomène et d'après quels critères? Et également à quel régime précis particulier cette notion renvoie? Vous verrez que je propose quand même un usage de cette notion qui reste très, très restreint, avec l'idée que ce n'est pas une notion qu'on peut appliquer à n'importe quel type de régime qui s'efforcerait de retirer aux êtres humains leur liberté. Qu'est-ce qui réunit ces régimes dans une catégorie qu'on peut appeler donc le totalitarisme? Quelles sont les similitudes qui caractérisent ces régimes? Alors même qu'on le verra, ces régimes en l'occurrence ont parfois de très grandes différences et se sont même historiquement opposés les uns aux autres de façon parfois radicale. Cette question de la notion même de totalitarisme, de l'application d'une notion à des régimes politiques, c'est une question qui peut se poser pour d'autres types de notions. Par exemple, pour la démocratie, après tout, qu'est-ce qu'a en commun une démocratie libérale et une démocratie qui mettrait en avant davantage des critères sociaux? Qu'est-ce que ça a en commun? La notion même qu'on applique à des régimes politiques, elle peut toujours paraître arbitraire. C'est pas propre au totalitarisme, ce problème-là se pose pour toutes sortes de régimes politiques, pour toutes sortes de réalités historiques particulières. Donc le point de départ de mon travail, c'est ce que je vais commencer juste après, c'est de m'interroger sur la légitimité même de la notion de totalitarisme. Dans un deuxième moment, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif sera d'essayer d'en dégager, cette fois-ci, la signification anthropologique, au-delà même de l'étude empirique. Il me semble que c'est en allant au-delà des caractéristiques empiriques qu'on peut véritablement comprendre le sens de ces régimes, le sens de ces expériences qu'on qualifie donc de totalitaires. Le totalitarisme, qu'est-ce que ça désigne? Ça désigne la volonté d'unifier totalement la société autour d'un pouvoir politique et de faire disparaître, et là vous voyez le sens du titre, et de faire disparaître par la même occasion toutes les différences, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient politiques. Il s'agit plus d'un fantasme que d'une réalité, je continue sur la justification du titre, il s'agit plus d'un fantasme que d'une réalité parce que contre ce fantasme, en fait, il y a une pluralité qui fait partie de la condition humaine, qui appartient à la condition humaine et qui reste indépassable. Il s'agit donc plus d'un fantasme qu'une réalité. La pluralité ne peut pas disparaître, elle est déniée par les régimes totalitaires, c'est-à-dire à la fois niée et reconnue, ou plutôt reconnue par l'acte même de nier cette pluralité. Cette pluralité est combattue, elle est persécutée, et ça prend la forme d'une violence inouïe, et dont on montrera qu'elle est sans fin. Le totalitarisme, en fait, son objectif, c'est de s'en prendre à la condition humaine, à la condition même de l'homme. Et on peut dire qu'en étudiant ce régime, l'expérience auquel ce type de régime correspond, eh bien, on peut mettre en évidence un certain nombre de caractères de la condition humaine. Donc, je vais commencer. Donc, vous voyez dans le plan que vous avez reçu, j'ai répertorié 8 textes. Le premier, je l'ai mis, mais je ne le lirai pas, c'est juste pour information. On verra que dans ces textes, il y a Hannah Arendt qui revient le plus souvent. C'est pas par hasard, c'est pas par prédilection personnelle, mais sur cette notion de totalitarisme, elle est quand même, et elle reste, la référence, à mon sens, indépassable. Elle a été beaucoup critiquée pour son travail philosophique. On lui reproche un manque de données historiques. À la confrontation des données historiques que les historiens nous apportent aujourd'hui, je considère au contraire, pour ma part, que c'est bien chez elle qu'on trouve la meilleure caractérisation, en tout cas la plus importante, de cette notion de totalitarisme. Donc je vais commencer avec le premier titre. Qu'est-ce que le totalitarisme? De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on quand on dit qu'un régime est totalitaire? Donc c'est un régime d'abord dont on ne trouve des exemples qu'au XXe siècle. Ce n'est pas un régime qu'on pourrait faire remonter à des périodes bien plus anciennes, qu'on pourrait comparer à des périodes bien plus anciennes. La notion même de totalitarisme, ici je la réserve, c'est pas moi, hein, je veux dire, c'est l'ensemble des chercheurs qui se sont intéressés à la question, font l'application de cette notion exclusivement à des régimes du XXe siècle. L'objectif maintenant, c'est d'en dégager un certain nombre de caractéristiques, les caractéristiques qu'on peut considérer comme les plus importantes. Ces caractéristiques sont plus ou moins présentes, de manière plus ou moins nette, dans chacun des régimes. C'est parfois plus accentué dans un régime que dans un autre. C'est parfois plus accentué à une période de l'histoire de ce régime qu'à une autre période. Mais en tout cas, on voit que l'essentiel de ces caractéristiques qu'on va mettre en avant progressivement se retrouve dans chacun de ces régimes. Alors, j'ai parlé d'Hannah Arendt. Hannah Arendt, hein, Les origines du totalitarisme, c'est un texte de 1951, donc c'est au début des années 50. En 1956, il y a un texte qui est devenu une forme de classique sur la question du régime totalitaire qui a été publié par deux politologues américains. C'est les politologues dont j'ai mis le texte, c'est le texte numéro 1, j'ai mis annexe parce que je ne le lirai pas. Il s'appelle donc Friedrich et Brzezinski. Je crois que le dernier est encore vivant aujourd'hui, est encore quelqu'un qui est très connu et qui a une écoute aux États-Unis. Donc le titre de leur ouvrage, c'est « Totalitarian Dictatorship and Autocracy ». Et donc ce texte de ces deux politologues est devenu d'une certaine manière un classique sur cette question et a mis en évidence un certain nombre de critères qui sont considérés aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui sont retenus, qui sont utilisés de manière classique quand on parle de ces régimes. Qu'est-ce que disent ces deux politologues? Vous retrouverez ce que je vais dire ici dans le texte, puisque vous verrez à la fin du texte, j'indique les 6 caractéristiques principales retenues par ces auteurs. Eh bien, ils parlent de régimes qui sont des régimes de masse, qui s'adressent, qui s'appliquent aux masses, qui d'une certaine manière sont populaires, ou tout au moins, en tout cas, qui s'adressent au peuple. Ce sont des régimes qui sont idéologiques, qui mettent au centre de leur organisation de la société une idéologie. Ce sont des régimes qui sont préoccupés, nous disent les deux politologues, par la perfection, par l'idée d'une direction de l'histoire, d'une orientation vers une perfection. Ce sont des régimes qui sont révolutionnaires. Ce sont également des régimes qui sont centrés autour de la personne d'un seul homme. Enfin, ce sont des régimes qui pratiquent une terreur systématique à l'encontre de populations très étendues et qui concentrent entre leurs mains un pouvoir extrêmement important. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques classiques qu'on met en évidence, qu'on met en avant, qu'on retient quand on parle des régimes totalitaires. Alors, il m'a semblé nécessaire pour le début de cette étude de nous interroger sur ce qui sépare un régime totalitaire d'autres régimes dont on pourrait dire qu'ils privent également les êtres humains, j'en ai pas encore véritablement parlé, mais qu'ils privent les êtres humains, qu'ils privent les sociétés d'une liberté politique. Et donc, je vais essayer de mettre en avant l'idée que le régime totalitaire, à la fois est un régime liberticide, mais un régime liberticide bien particulier, qui se différencie d'autres régimes de privation de liberté, et qu'il ne faut pas les confondre. En tout cas, c'est ce qui servira de trame à l'ensemble de cette étude historique préalable. L'idée, c'est qu'il existe différents types de régimes liberticides, différents types de régimes extrêmement violents, le régime totalitaire étant un de ces types-là, mais ne doit surtout pas être confondu avec les autres. C'est ce que le premier texte d'Hannah Arendt explicite d'emblée, c'est le texte numéro 2 que vous trouverez sur vos feuilles. Hannah Arendt, c'est un texte de 1956, « Autorité, tyrannie et totalitarisme ». Je lis le texte, donc. « La connaissance que nous en avons des régimes totalitaires est encore très limitée. La seule variété qui s'offre pleinement à notre investigation étant le régime hitlérien, sur lequel on dispose depuis quelques années de matériaux et de documents assez complets. C'est en raison même de cette limitation que nous sommes tentés d'examiner le plus récent corps politique de notre histoire avec les outils conceptuels qui s'appliquent à des expériences plus familières ou qui en dérivent. Mais cette identification abusive, avec d'un côté la tyrannie, avec de l'autre l'autoritarisme, nous fait perdre de vue précisément celles des caractéristiques et des institutions qui appartiennent à ce phénomène, donc le totalitarisme, à l'exclusion de tout autre. Hannah Arendt s'efforce ici de mettre en évidence vraiment les critères particuliers du régime totalitaire, et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc ça correspond au deuxième titre, enfin plutôt au premier sous-titre de la première partie, « Distinction avec les autoritarismes et tyrannies, nécessité donc de ce concept de totalitarisme ». Donc les concepts traditionnels qu'elle évoque, qui servent à dire l'extension du pouvoir et la violation des libertés politiques, ce qu'elle appelle « autoritarisme et tyrannie », eh bien ne suffisent pas pour décrire les réalités politiques inédites qu'a connues le XXe siècle. C'est cette même nouveauté-là qui arrête l'attention d'Hannah Arendt quand elle entreprend sa grande étude sur les origines du système totalitaire. C'est cette nouveauté qu'elle ne cesse de mettre en évidence et dont elle dit qu'on risque de l'ignorer si on veut absolument trouver des rapprochements avec d'autres types de régimes plus classiques, plus connus, plus répandus dans l'histoire, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, qui ne sont pas de la même nature. Donc les autoritarismes et les tyrannies et les totalitarismes, ce ne sont pas trois régimes de même nature qui seraient plus ou moins liberticides, certains allant plus loin dans la privation de liberté et d'autres éventuellement laissant davantage de liberté tout en retirant un certain nombre d'entre elles. Ce ne sont pas des régimes donc de même nature, et elle reproche d'ailleurs cette idée-là essentiellement au libéralisme politique. Elle dit, on lira un texte tout à l'heure, elle dit que les auteurs libéraux en général ont méconnu cette différence et ont fourré dans un même sac tous ces régimes en ne voyant pas que entre une tyrannie et un régime totalitaire il y a un écart aussi grand d'une certaine manière qu'entre un régime tyrannique et une démocratie. Ces régimes, dit-elle, sont par nature différents, ils ont des buts divergents. Quand dans les années 50, Hannah Arendt écrit, je le dis tout de suite, j'y reviendrai dans les détails tout à l'heure, son idée, ça s'applique à deux régimes particuliers. Le nazisme, et encore, dit-elle, le nazisme à une certaine époque de son histoire, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais elle fait remonter ça à 1938, ça peut paraître un peu étonnant. Pour Hannah Arendt, ça correspond en fait à la nuit de cristal et au début du génocide des Juifs. Et au stalinisme, à partir de 1930, je pense qu'on peut tout à fait discuter hein, cette périodisation, à partir de 1930, c'est-à-dire en gros au moment de l'avènement véritable du stalinisme et des opérations de dékoulakisation, c'est-à-dire en gros un début déjà d'extermination de masse. Bon, ça, c'est le critère qu'elle retient. Jusqu'à la fin de sa vie, elle restera sur ces deux régimes. C'est juste à la toute fin de sa vie, quand elle rééditera les origines du système totalitaire, qu'elle discutera la nature totalitaire du maoïsme. Et bon, j'en parlerai pas, mais sa position n'est pas totalement tranchée sur cette question. Mais elle n'inclut aucun type de régime différent que ces deux-là. Elle exclut en particulier le fascisme italien. On reparlera du fascisme italien parce que c'est dans l'histoire du totalitarisme un régime politique qui a une certaine importance. Par rapport à cette question donc, de la différence entre totalitarisme, tyrannie, autoritarisme, on peut lire donc les textes suivants, les textes numéro 3, le premier en particulier, texte 3A, donc c'est tiré d'un texte de 1961 qui s'appelle « Qu'est-ce que l'autorité ?» qu'on trouve dans son recueil de textes qui s'appelle « La crise de la culture ». Elle écrit donc la chose suivante « Cela leur fait », elle parle donc des penseurs libéraux, « Cela leur fait aux penseurs libéraux négliger », alors je vous dis tout de suite ce que c'est que le « cela ». Elle dit « Pour les libéraux, l'histoire est en progrès vers la liberté ». Elle dit « Pour les libéraux, l'histoire, elle tend nécessairement vers la liberté ». Et donc, d'une certaine manière, pour elle, pour ces auteurs-là, il y a d'un côté les régimes qui favorisent la liberté et de l'autre, tous ceux qui s'y opposent. Donc voilà, elle dit « Ils les confondent ». Ils confondent les totalitarismes avec les tyrannies. Cela leur fait aux penseurs libéraux négliger les différences de principe, le terme est assez fort et important, entre la restriction de la liberté dans les régimes autoritaires, d'un côté, l'abolition de la liberté politique, j'insiste sur le mot politique, dans les tyrannies et les dictatures, on voit apparaître un troisième terme qu'on n'avait pas encore lu, et l'élimination totale de la spontanéité elle-même, c'est-à-dire de la manifestation la plus générale et la plus élémentaire de la liberté humaine, élimination à laquelle visent seulement les régimes totalitaires au moyen de leurs diverses méthodes de conditionnement. Restriction de la liberté dans les régimes autoritaires, abolition de la liberté politique dans les tyrannies et les dictatures, élimination totale de la spontanéité dans les régimes totalitaires. Voilà la différence qu'elle opère et qui, d'une certaine manière, structure toute son étude de la notion de totalitarisme. Alors, je vais m'arrêter principalement sur les tyrannies. Les régimes tyranniques détruisent la liberté parce qu'ils sont gouvernés selon la volonté, arbitraire du tyran et ses intérêts. Ces régimes-là laissent donc place à une violence extrême, dont chacun peut être victime s'il ne s'occupe pas de ses affaires privées. S'il prétend se mêler d'affaires qui concernent la vie publique, la politique. Si d'une certaine manière, il vient chasser sur les terres du gouvernement. Dans la tyrannie, donc, celui qui, d'une certaine manière, resterait dans son coin, s'occuperait de ses affaires privées, ne s'occuperait pas d'affaires publiques, celui-là, je ne veux pas dire qu'il risquerait rien, mais en tout cas, disons que ce n'est pas lui qui est menacé en priorité. C'est bien l'opposant politique qui est menacé en priorité dans le régime totalitaire. Pardon, dans le régime tyrannique. Dans la tyrannie, c'est la peur qui domine, nous dit Hannah Arendt. Les particuliers ont peur, ils ne sont jamais à l'abri d'un coup de sang du dictateur, du tyran. Mais inversement, le tyran lui aussi a peur de son peuple. Jamais, ce qui peut arriver, voilà, il peut exercer son pouvoir de manière quand même arbitraire et étendre la violence un peu trop, donc on ne sait jamais s'il ne peut pas lui-même être renversé. Bon. L'œuvre de Machiavel est remplie d'études de cette question-là. On voit que finalement, un tyran a intérêt à ne pas trop quand même susciter la haine de ses sujets. Donc le tyran peut avoir peur et pour s'en protéger, eh bien, il doit bénéficier des services d'une garde personnelle puissante. La tyrannie, elle fait disparaître la liberté, mais au sens de la liberté politique en priorité. C'est ce qu'Anna Arendt a écrit. C'est-à-dire de l'espace public. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? Anna Arendt en donne une définition en disant « c'est l'espace de manifestation de soi devant les autres ». L'espace public, c'est, dit-elle, une invention de la démocratie athénienne. C'est l'espace dans lequel des semblables, des égaux, eh bien, se manifestent les uns devant les autres, font connaître leur volonté, font connaître leur pensée, agissent de concert. Dans la tyrannie, cet espace public n'a plus lieu d'être. seul le tyran est en droit de l'occuper. Dans la tyrannie règne la séparation. Les individus doivent être séparés les uns des autres, si ce n'est pour des affaires économiques, des affaires privées. On ne sait jamais ce qui peut se passer chaque fois que quelqu'un va s'associer avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une révolte qui se fomente. Donc, c'est le règne de la séparation. Dans ces régimes-là, les seuls liens humains qui demeurent, ce sont des liens privés, des liens familiaux en particulier, ou économiques. L'humanité, dans ces régimes, est réduite à du bétail, parce que ce qui est au cœur de la liberté humaine est écarté, à savoir le fait d'être capable de prendre des initiatives, le fait, je reprends ici des analyses d'Anna Arendt encore, le fait de pouvoir voir et de pouvoir être vu, espace public. Donc ce qui est au cœur de la liberté humaine est écarté au profit des seules activités liées aux nécessités de la vie. Là aussi, je m'inscris un petit peu dans des catégories qui sont celles d'Arendt. D'un côté, il y a la vie publique, d'un côté, il y a l'action, et de l'autre côté, il y a les nécessités de la vie biologique, le travail. Dans une tyrannie, on peut travailler, on peut gagner sa vie, on peut s'enrichir, on ne peut pas s'occuper des affaires publiques. C'est le tyran, et le tyran exclusivement, qui a autorité sur ses affaires. On trouve ça dans le texte 3b. Le tyran, donc toujours du même article, le tyran est le dirigeant qui gouverne seul contre tous, et les tous qui l'oppressent sont tous égaux, c'est-à-dire également dépourvus de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir entendu ici comme pouvoir d'agir, comme action, comme initiative publique. Si nous nous en tenons à l'image de la pyramide, tout se passe comme si les couches intermédiaires entre le sommet, donc le tyran, et la base, les populations, étaient détruites, de telle sorte que le sommet demeure suspendu, soutenu seulement par les proverbiales baïonnettes. Je ne sais pas très bien à quoi elle fait référence, mais enfin, on comprend que c'est la force physique, c'est la brutalité physique, au-dessus d'une masse d'individus soigneusement isolés, désintégrés et complètement égaux. Désintégrés, en tout cas, n'entretenant aucun lien les uns avec les autres. La théorie politique classique excluait totalement le tyran de l'humanité et l'appelait un loup à figure humaine, c'est une citation de Platon, à cause de cette situation d'un contre tous où il s'était mis lui-même. D'un côté, un loup à figure humaine, de l'autre côté, du bétail. Donc ça, c'est le régime de tyrannie tel qu'Anna Arendt en propose une caractérisation. Maintenant, on en vient au totalitarisme, puisque c'est lui qui nous intéresse ici. C'est le titre suivant, donc le totalitarisme ou l'illimité en politique. Alors, qu'est-ce que les totalitarismes ont en commun? Je l'ai dit pour commencer, notion qu'on applique à des régimes différents, des événements, des réalités historiques différentes. On souligne par l'utilisation de ce terme que ces régimes ont des points communs, ont des convergences, se croisent malgré leurs différences. Qu'est-ce que ces totalitarismes ont en commun? Je vais donner donc trois caractéristiques, en tout cas c'est celles que je vais retenir. Tout à l'heure j'en ai donné plus avec les deux politologues américains. Je vais en retenir trois principales. Une idéologie totale qui prétend donner une interprétation totale de l'histoire humaine, qui prétend parler aussi bien du passé que de l'avenir, qui prétend être capable de donner une compréhension totale du réel. Un pouvoir centré autour d'un chef, il n'y a pas de régime totalitaire sans un chef, on verra quelle forme ça prend. Une terreur sans limite, il me semble que c'est d'ailleurs sans doute la caractéristique principale. Anna Arendt, d'ailleurs, a retenu la première et la troisième en faisant, c'est la fin de son livre, le dernier chapitre des origines du totalitarisme s'appelle « Idéologie et terreur ». Elle montre que ce sont ces deux aspects qui se croisent en permanence dans les régimes totalitaires et qui font leur nature propre. Il s'agit en effet de régimes qui déportent les gens par millions sans qu'il s'agisse d'opposants déclarés, mais parce que ces personnes appartiennent à des catégories de la population qui sont considérées comme suspectes ou qui sont considérées comme ne devant pas appartenir à la société nouvelle voulue, décrite, dessinée par le pouvoir politique. Donc un régime de terreur de masse qui opère des exterminations de masse. C'est ce que je vais essayer de mettre en évidence tout au long de cet exposé. Ces régimes sont gouvernés par un chef, je l'ai dit tout à l'heure, gouvernés par un chef au service, lui-même, au service d'une idéologie totale. On est très loin du tyran qui gouverne parce qu'il a pris le pouvoir par la force, qui gouverne selon ses intérêts propres, qui peuvent être des intérêts purement privés d'ailleurs, souvent habillés d'un discours idéologique, mais dont personne n'est dupe, qui va pratiquer le vol à très haut niveau. Le chef dans le régime totalitaire, d'une certaine manière, il est comme le fonctionnaire de l'idéologie. C'est pas quelqu'un qui a pris simplement le pouvoir par la force, c'est pas simplement quelqu'un qui exerce son autorité et son pouvoir par la violence et dans le sens de ses intérêts, c'est quelqu'un qui va mettre l'intégralité de son autorité au service de l'idéologie dont il pense être finalement le fonctionnaire plus que le profiteur personnel. Donc, ces régimes sont gouvernés par un chef au service d'une idéologie. Cette idéologie, donc, explique la totalité du réel, passé comme futur. Dans les régimes totalitaires, le régime est sans cesse célébré. Il y a quelque chose de très grandiloquent dans les discours totalitaires. C'est l'auto-célébration permanente. Le régime s'auto-congratule en permanence pour sa grandeur, pour ses réalisations, pour son génie. Là, le régime soviétique sous Staline est quand même assez parlant. Vous regardez l'art socialiste, le réalisme socialiste soviétique, tout est à la gloire de Staline, qui est le grand génie qui montre la voie à l'ensemble du peuple. Aujourd'hui, j'en reparlerai tout à l'heure, mais vous regardez qu'en Corée du Nord, on a affaire à visiblement quand même des personnages assez peu reluisants, qui sont vantés en permanence comme des grands génies pour l'humanité, qui constituent comme des phares pour l'humanité dans son ensemble. Ce sont quand même des régimes qui ont tendance d'abord à la grandiloquence, à s'auto-célébrer en permanence et à dire qu'en gros, voilà, que avant eux il n'y avait rien et après eux il n'y aura rien non plus. Bon. Dans ces régimes règne par ailleurs l'unanimité. Règne ou doit régner l'unanimité. On retrouvera la notion de fantasme, on se doit. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que ça n'est qu'un fantasme? Donc dans ces régimes règne ou doit régner l'unanimité, on récuse en effet toute volonté propre, toute initiative personnelle. Il n'y a qu'une seule voie, qui est la même pour tous. Le modèle du régime totalitaire, d'ailleurs, j'avance sur des choses que je dirai un peu plus tard, mais vous le savez bien, j'ai parlé du stalinisme, j'ai parlé du nazisme, ce sont ces grandes processions, ce sont ces grands défilés qui ne sont pas que militaires, qui concernent aussi la société dans son ensemble, où il n'y a pas un poil qui dépasse. On voit une rangée qui fait 3 km de long. Anna Arendt dit d'ailleurs que dans un régime totalitaire, les régimes totalitaires font comme si les hommes ne formaient qu'un seul homme. Donc doit régner l'unanimité, on ne tolère aucune forme de divergence, et on fait en sorte d'ailleurs qu'aucune forme de divergence ne soit possible. La nouveauté donc du totalitarisme, et c'est bien de nouveauté qu'il s'agit, c'est l'ambition d'un pouvoir illimité. C'est par ailleurs, ça va avec, la destruction de la société. C'est son organisation, sa réorganisation selon les plans de l'idéologie. Ça, l'idéologie totale, c'est qu'elle prétend réorganiser, être capable de réorganiser totalement la société dont elle hérite d'une certaine manière. Et c'est par ailleurs le meurtre de masse. On verra d'ailleurs que le meurtre de masse est sans doute la réalisation de l'idéologie. Et sans doute la manière dont l'idéologie se traduit dans la réalité. Les mouvements et les régimes totalitaires s'en prennent donc non pas à la liberté politique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour les tyrannies, non pas à la liberté dans son sens public seulement, mais à la liberté qui est au cœur de la condition humaine. Ce qu'Anna Arendt nomme, on l'a déjà vu dans le texte 3, dans le texte 3a, ce qu'Anna Arendt appelle la spontanéité. La spontanéité, c'est-à-dire non pas la liberté dans son sens politique, mais la liberté dont elle dit qu'il est attaché naturellement à la condition humaine. Spontanéité, ça vient du latin, sponte, ça veut dire ce que l'on fait de soi-même. Sponte, de soi-même. Les régimes totalitaires visent en en essayant de dépasser la spontanéité, vise une, ce qu'Hannah Arendt appelle une domination totale. Non pas une domination politique, mais une domination totale qui touchera aussi bien les affaires politiques que les affaires privées. Je vais lire ici le texte 4a. Donc cette fois-ci, on a affaire à son grand ouvrage, donc Les origines du totalitarisme, dans lequel il y a trois volumes. L'impérialisme, j'ai un trou sur le deuxième, l'impérialisme, l'antisémitisme, et le troisième, le système totalitaire, c'est celui qui retient mon attention ici. Donc le système totalitaire, troisième volume de ce grand ouvrage. Je lis texte, donc « Détruire l'individualité, c'est détruire la spontanéité, le pouvoir qu'a l'homme de commencer quelque chose de neuf à partir de ses propres ressources. » Vous voyez bien, on retrouve la spontanéité. « Quelque chose qui ne peut s'expliquer à partir de réactions à l'environnement et aux événements. » Ça n'est pas qu'une réaction. La spontanéité, ça n'est pas que réagir aux événements extérieurs. C'est bien quelque chose qui vient de soi. C'est pas une réaction, c'est une action. La réaction ne consistant qu'à réagir à quelque chose qui vient de l'extérieur, l'action étant ce qui vient de soi. Hannah Arendt montre donc que les régimes totalitaires veulent détruire l'individualité, la spontanéité, c'est-à-dire ce qui est le plus viscéralement, dit-elle, attaché à la condition même d'un être humain. Le totalitarisme vise donc la domination totale, c'est-à-dire plus que la domination politique. Pour y parvenir, comment faire ? Eh bien, on cherche à faire disparaître non simplement l'espace public, mais aussi l'espace privé. Rien ne devra rester hors de contrôle. Rien ne devra constituer un espace privé auquel l'autorité politique ne pourra pas, une autorité politique ne pourrait pas exercer son pouvoir. Tout aspect de l'existence individuelle ou sociale doit donc être contrôlé. Aucune initiative ne doit être laissée aux individus, aux particuliers. Au contraire, le pouvoir doit lui-même prendre les initiatives, doit prendre les devants, doit pénétrer la vie de chacun et la vie de la société. Elle doit soumettre le corps de la société à un conditionnement permanent, un conditionnement idéologique, doit intégrer d'une certaine manière, on y reviendra plus tard, intégrer la société. On verra s'il s'agit d'un État ou pas, mais en tout cas, doit faire en sorte que la séparation société-pouvoir disparaisse. Que la société soit comme intégrée intégralement au pouvoir, au régime. Qu'il n'y ait plus une vie sociale qui échappe, qui soit extérieure au régime. Dans tous les régimes totalitaires, on rencontre cette idée d'une organisation la plus étroite possible, du berceau jusqu'à la tombe. En particulier par l'intermédiaire des jeunesses totalitaires. Tous les régimes totalitaires connaissent ce principe de jeunesse totalitaire, les plus connus évidemment étant les jeunesses nazies, mais aussi les jeunesses en URSS, qu'il s'agisse des pionniers ou des komsomol, en fonction de l'âge des enfants de 1 à 14 ans, et 14 ans et plus. Extension par ailleurs maximale du parti, maximum de membres de la société font partie, sont membres à part entière du parti. En Allemagne nazie, le chiffre a monté jusqu'à 8 millions de membres. En URSS, en 1945, il y avait environ 6 millions de soviétiques qui faisaient partie du Parti communiste d'Union soviétique. C'est pas simplement des populations qui sont susceptibles de former une élite. Ce sont d'abord des populations qui sont susceptibles d'encadrer le reste de la population. L'idée de ces grands partis, c'est d'abord de faire en sorte qu'ils soient présents à tous les lieux de la société, que rien de la société n'échappe au regard du régime par l'intermédiaire même du parti. Texte 4b, qui va donc dans ce sens-là, l'idée d'une domination totale, d'aller plus loin que la liberté, que la domination politique, aller jusqu'à la domination de l'espace privé, la disparition de l'espace privé. Donc, texte 4b, ceux qui aspirent à la domination totale doivent liquider toute spontanéité, telle que ne manquera pas de la faire surgir la simple existence de l'individualité. Ils doivent les traquer toutes deux, donc individualité et spontanéité, jusque dans leurs formes les plus intimes, si apolitiques et inoffensives qu'elles puissent paraître. Hannah Arendt donne un exemple, par exemple, dans son texte, en disant que dans un régime parfaitement totalitaire, même un jeu apparemment aussi inoffensif qu'un jeu d'échecs revêt un sens politique. Il peut même plus y avoir d'indifférence politique d'un jeu aussi anodin qu'un jeu de société. Les régimes totalitaires ont une ambition inédite, c'est de faire disparaître tout ce qui crée de la séparation entre le régime et les particuliers. Comment faire ? En mobilisant en permanence les particuliers par l'intermédiaire du parti, en suscitant le fanatisme le plus radical. Donc, dépasser les séparations entre le régime et les particuliers, dépasser toute une série d'autres séparations entre les individus et le peuple, par l'embrigadement et par la surveillance, dépasser la séparation entre le peuple, là j'introduis une notion que je n'ai pas encore véritablement mis en évidence, entre le peuple et ses prétendus ennemis, on verra l'importance de la notion d'ennemi dans les régimes totalitaires, donc dépasser la séparation entre le peuple et ses prétendus ennemis en chassant ses prétendus ennemis et même plus en les exterminant, enfin dépasser la séparation entre l'histoire et le destin, entre l'histoire où finalement une société ne sait pas où elle va, une société subit l'histoire plutôt qu'elle ne la fait, et le destin qui est au contraire créé par le régime. Cette séparation sera dépassée par la conquête, par le succès, par la révolution mondiale. Les régimes totalitaires n'ont cessé de se gargariser de leur conquête. Leur conquête sociale, de leur conquête militaire, de l'élimination des ennemis. Je disais tout à l'heure, ils s'auto-congratulent en permanence eux-mêmes. Ils ne cessent de dire qu'ils sont sur la voie de la fin de l'histoire. Enfin, pour ce point, dernier petit texte, toujours du même auteur. Dans des circonstances normales, ce projet donc de domination totale, de faire disparaître les séparations, ce projet ne peut jamais être accompli parce que la spontanéité ne peut jamais être entièrement éliminée dans la mesure où ce n'est pas seulement à la liberté humaine, mais à la vie elle-même qu'elle est liée, dans le sens d'un simple maintien en vie. D'une certaine manière, la vie humaine, en tant que telle, sans qu'on ait encore affaire à une revendication de liberté, sans qu'on ait affaire même à l'idée pour un être humain qu'il est libre, eh bien dans la simple existence humaine, dit Hannah Arendt, se loge la spontanéité. Et d'une certaine manière, pour faire disparaître la spontanéité, il faut s'en prendre, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais redire encore, il faut s'en prendre à la condition humaine en tant que telle. Je continue la lecture. C'est seulement dans les camps de concentration qu'une telle expérience est tant soit peu possible. Et donc ils ne sont pas, les camps de concentration, seulement la société la plus totalitaire encore réalisée, citation de David Rousset, mais aussi l'idéal social exemplaire de la domination totale en général. David Rousset, c'est un personnage, c'est un auteur, un écrivain qui a connu les camps de la mort nazis, qui a écrit un livre qui s'appelle Les jours de notre mort, et puis qui plus tard eut des démêlés puisqu'il prit position contre le Parti communiste français pour soutenir qu'il existait des camps en URSS. C'est quelqu'un de très connu à l'époque pour la rédaction de cet ouvrage. Donc c'est pas simplement, dit Hannah Arendt, la société la plus totalitaire encore réalisée, mais la domination, l'exemple de la domination totale en général. Bon, cette première partie, c'était, je dirais, les caractérisations principales d'un régime totalitaire. J'en viens à mon deuxième moment où je vais parler de manière plus concrète de quel type de régime est-ce qu'il s'agit. Donc c'est le grand 2, enfin il n'y a pas de numéro, mais le totalitarisme dans l'histoire. Alors, historiquement, le totalitarisme correspond à un certain nombre de régimes extrémistes, mais rares, qui ont eu cependant une place importante tout au long du XXe siècle, en particulier, peut-être de manière plus particulière pour le régime stalinien, puisque d'abord il a duré très longtemps, hein, 1917 jusqu'à 1990, même si l'idée que c'est un régime totalitaire au-delà de la période de Staline est quand même hautement discutable, hein. Pour ma part, à mon avis, à partir de Brejnev, si ce n'est de Khrouchtchev, ça n'est déjà plus un régime totalitaire. Mais par ailleurs, c'est un régime qui a eu une grande influence sur d'autres régimes et qui a eu aussi une très grande importance sur les mouvements idéologiques même qu'on trouve en Occident, à cette époque et bien au-delà. Donc, ce sont des régimes qui ont quand même une place très importante au XXe siècle, au-delà même de, je dirais, ce qu'ils ont fait concrètement sur leur territoire. Ce sont des régimes extrémistes, ce sont des régimes radicaux. Leur radicalité donc permet de les distinguer des régimes que je qualifiais tout à l'heure de tyranniques. Il convient par conséquent, je le redis, de ne pas banaliser cette idée de totalitarisme en appliquant le qualificatif de totalitaire à toute forme d'atteinte aux libertés. Se pose d'ailleurs ici, et va se poser tout de suite après, la question du caractère totalitaire ou non, de l'Italie fasciste. Est-ce qu'il s'agit d'un régime totalitaire ? Or, il s'avère que c'est à l'intérieur du fascisme italien que la notion de totalitarisme est apparue. Le terme trouve sa naissance, son origine, en 1923, à l'intérieur du régime de Mussolini. C'est le premier sous-titre de cette deuxième partie. L'inventeur du terme s'appelle Giovanni Amendola. C'est un terme qu'il a employé pour la première fois en 1923. Amendola, c'est un opposant à Mussolini, un opposant libéral. Quand il emploie ce terme de totalitarisme, c'est pour désigner, vous allez voir d'ailleurs que ça a un sens très restreint au point de départ, c'est pour désigner la manière dont les élections se passent, il y a des élections qui ont lieu pendant l'Italie fasciste, la manière dont se passent les élections sous le fascisme italien. La notion de totalitarisme, c'est bien la notion de totalité qu'on trouve dedans, et ça désigne, nous dit Amendola, l'association de la majorité et de la minorité, qui sont décidées toutes les deux, avant même que les élections aient lieu, par le pouvoir fasciste. On désigne des candidats, dont on sait par avance qu'ils gagneront les élections, mais on nomme aussi la minorité, ceux qui perdront les élections, qui sont eux aussi des personnes qui, d'une certaine manière, sont au service du régime fasciste. Et Amendola dit le système totalitaire, c'est l'expression qu'il emploie, ça désigne ce scrutin électoral sous le fascisme. L'idée, c'est que la totalité, c'est l'association, c'est l'addition de la majorité et de la minorité. Bon, c'est pas ça qui, a donné son sens à ce que je vous ai décrit auparavant. Ça, c'est le point de départ contingent de cette notion, ou plutôt de ce terme. Alors, le sens du terme totalitaire, cependant, évolue un petit peu assez vite, puisque 2 ans plus tard, en 1925, Amendola utilise le même terme, non plus pour parler du système électoral fasciste, mais pour rapprocher le fascisme italien du bolchevisme. En 1917, ça fait 8 ans que les bolcheviks ont pris le pouvoir en URSS, Lénine est mort, on est dans cette phase de transition, on ne sait pas encore qui est susceptible de lui succéder véritablement. Il y a plusieurs lignes, il y a plusieurs courants. Bon. Mais en tout cas, Amendola souhaite par ce terme montrer les convergences entre le fascisme italien et le bolchevisme. C'est le texte numéro 5. Donc c'est un texte publié en 1951, mais qui date bien de 1925. Donc la Nuova Democracia, NAP 1951. Deux groupes de pensée. Alors, je dois vous dire que là, c'est du seconde main. Je connais pas les textes, je les ai pas trouvés, je lis pas l'italien, c'est pas traduit en français. Bon, c'est du seconde main, mais c'est fiable. J'ai recoupé un certain nombre de sources. Bon, deux groupes de pensée, deux inspirations politiques opposées, donc fascisme et bolchevisme, qui pourtant nient toutes deux l'État démocratique libéral, et menace de manière convergente de saper les fondations plus que centenaires de la vie politique moderne. Réaction totalitaire au libéralisme et à la démocratie. Bien, c'est un libéral qui parle, il associe démocratie et libéralisme, il rapproche bolchevisme et fascisme. Ce que je vais essayer de montrer maintenant, c'est que ce rapprochement reste largement discutable. Une troisième étape dans cette, je dirais, histoire fasciste du totalitarisme, c'est la réappropriation du terme par Mussolini lui-même. Dès 1925, Mussolini reprend le terme employé par ses opposants pour qualifier son propre régime politique. Qu'est-ce qu'il désigne par totalitaire ? Citation de Mussolini, « volonté totalitaire inflexible ». Il désigne par cette expression la légitimité populaire qui est censé venir, lui être accordé par l'unanimité qui anime la société italienne. Pour Mussolini, la société italienne ne parle que d'une seule voix, par sa bouche. Et c'est bien, il n'est que d'une certaine manière le traducteur de l'âme du peuple, il y a des termes de ce genre dans l'Italie fasciste, de quelque chose comme une âme. Eh bien, la volonté totalitaire inflexible, c'est bien l'idée d'une unanimité de la société italienne. L'usage par Mussolini de ce terme, donc à partir de 1925, est sans doute un moment important de l'idée même, ou plutôt du terme même de totalitarisme, parce que sans Mussolini, il est probable que le terme n'aurait jamais percé. Il serait resté un terme, je dirais, spécialisé dans un certain courant politique. Il est fort probable qu'il ait étendu son influence jusqu'à désigner, à partir des années 40 et 50, l'ensemble des régimes qu'on va maintenant étudier. Donc je dirais, l'importance de Mussolini est quand même grande ici. À ce sujet d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, les nazis, peu de temps après, discuteront cette notion de totalitarisme, mais elle les gênera considérablement. On trouve dans un certain nombre de textes nazis cette notion de totalitarisme, mais finalement n'a jamais véritablement été retenue par le régime. J'en parlerai plus tard, mais ce qui gêne les nazis, c'est que ce régime désigne trop un système d'État. Et un système d'État, c'est un système finalement trop classique pour les nazis. Ils sont dans une logique bien plus révolutionnaire et c'est plus le parti qui compte pour eux que l'État. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. Titre suivant, les cinq régimes concernés. Le communisme soviétique, le nazisme, la Corée du Nord, la Chine maoïste, le Cambodge. Voilà, je vous livre en cinq mots les cinq régimes dont je pense qu'on peut dire sans difficulté que ce sont les régimes totalitaires qui ont existé dans l'histoire. On pourra discuter l'appartenance d'autres régimes, mais ceux-là sont clairement avérés. Il n'y a que la Corée du Nord, à la limite, qui est peut-être un petit peu moins évidente que les autres. Dans ces cinq régimes-là, on assiste à des persécutions de masse, à des déportations dans des camps de concentration, à des génocides. Le cas de la Corée du Nord est un petit peu à part, pour deux raisons. D'abord parce que c'est le régime qu'on connaît le moins, il existe encore, il est extrêmement fermé. On a de connaissance à son égard que très fragmentaire, par des gens qui se sont réfugiés en Corée du Sud en général, ou en Chine. Et c'est très difficile d'échapper aujourd'hui au système de Corée du Nord. Donc d'abord, on a une connaissance très fragmentaire, et ensuite, pour ce qu'on en connaît, les déportations dans les camps de travail en Corée du Nord n'ont sans doute pas la même ampleur qu'elles ont pu avoir, par exemple, au Cambodge. Les persécutions dans ces régimes totalitaires n'ont jamais cessé, ne se sont jamais atténuées, comme on aurait pu attendre que ce soit le cas dans un régime consolidé. La plupart de ces régimes étaient suffisamment installés pour ne plus avoir à persécuter tout le monde en permanence. Pour assurer leur sécurité, ces persécutions, ces déportations n'avaient strictement rien de nécessaire. Comment comprendre ce développement absolu de la violence ? On peut le comprendre en disant que l'élimination des ennemis, des prétendus ennemis, ce n'est peut-être pas un moyen. C'est peut-être pas le moyen de quelque chose d'autre. C'est peut-être la fin même du régime totalitaire. Ce que je montrerai, c'est que c'est peut-être même sa signification la plus profonde. Qu'éliminer des ennemis, c'est peut-être le sens le plus profond de l'idéologie totalitaire. C'est pas on élimine pour, c'est on élimine tout court. Éliminer, c'est peut-être le sens véritable du régime totalitaire, c'est ce que j'essaierai de montrer un peu plus loin. Parce qu'en éliminant des ennemis, on montre qu'on se rapproche toujours davantage de la société qu'on a décrite comme une société dans laquelle chacun trouvera sa place. Enfin, ceux qui sont du bon côté de la frontière quand même. La société concentrationnaire, Anna Arendt nous le disait tout à l'heure, accomplit de manière idéale le régime totalitaire, puisque dans ces régimes concentrationnaires, il n'y a plus de spontanéité. L'organisation y est militaire, l'obéissance y règne en maître. Quelques éléments très concrets sur ces cinq régimes qui permettent de montrer ce que c'est que le totalitarisme. Le communisme soviétique, pour commencer, le communisme soviétique stalinien, connaît un culte de la personnalité extrême. Le goulag voit la déportation de plusieurs millions d'innocents. L'Ukraine, 1932, subit un génocide par la faim au début des années 30. Les procès de Moscou, peut-être l'aspect le plus connu, élimine une partie importante des cadres soviétiques. Là, on est à la fin des années 30, 1937. L'URSS est par ailleurs caractérisée par de très grandes processions à la gloire du régime. Les populations, je vous livre en vrac ces caractéristiques, elles ne demandent pas d'explication particulière. Les populations sont encadrées, elles sont mises au service de l'idéal soviétique dès leur plus jeune âge et à tous les niveaux de la société. On mobilise les ouvriers, on mobilise les paysans, on mobilise les artistes et les militaires. L'article 58, Solzhenitsyn a consacré des chapitres importants de son archipel du Goulag à ce fameux article 58 du Code pénal soviétique. L'article 58 du Code pénal soviétique permet toutes sortes de condamnations fantaisistes en élargissant presque sans limite la catégorie d'activité contre-révolutionnaire. Je ne sais pas si toutes les informations données par Solzhenitsyn sont fiables, en tout cas elles sont frappantes. Une en particulier, dit-il, quelqu'un qui emballe un poisson dans un article de journal où on voit la photo de Staline peut finir au goulag. Celui qui, quand on applaudit Staline, celui qui arrête d'applaudir le premier finit au goulag. Il y a le KGB qui est là et qui regarde, pour savoir qui a envoyé. Bon, ce régime, par ailleurs, aura une très grande influence sur les autres régimes communistes totalitaires. Le nazisme. Le plus connu, nous disait, des régimes totalitaires tout à l'heure, début des années 50, le nazisme, centré autour d'une idéologie raciale totale, n'a cessé de se radicaliser jusqu'à entraîner le monde dans la guerre et à organiser la destruction des juifs de toute l'Europe. Dans le régime nazi, l'art est mis au pas, on brûle les livres qui ne sont pas conformes, les organisations de jeunesse sont extrêmement développées. Les grandes manifestations ayant vocation à montrer la militarisation, la mobilisation totale et l'unité de la société ont lieu, de très grandes manifestations ont lieu. On connaît la cathédrale de lumière de Nuremberg, bon, c'est des choses relativement connues, mais qui manifestent bien ce que c'est qu'un régime totalitaire. L'idée, c'est de marquer l'imagination, c'est de montrer l'unité du peuple. L'architecture totalitaire est une... Miguel Abinzour a écrit un livre qui s'appelle « De la compacité sur le caractère compact de l'architecture totalitaire. Il montre que l'architecture totalitaire a toujours un caractère démesuré, gigantesque, qui écrase l'individu et à l'intérieur desquels les populations sont censées se réunir et être en masse, être réunies dans des masses compactes. C'est le titre de son ouvrage, De la compacité. Donc militarisation, mobilisation, unité de la société racialement pure sous le nazisme. La Chine maoïste a connu deux épisodes extrêmes qui semblent être tout à fait révélateurs de ce qu'on appelle un régime totalitaire. En 1959, Mao décide de faire un grand bond en avant. Aujourd'hui, ça commence à être connu depuis une dizaine d'années. Il y a un travail sérieux qui a été fait sur ces questions. Il y a eu beaucoup de publications, même de Chinois, qui ont été faites sur cette question du grand bond en avant. Donc il s'agissait de faire un grand bond en avant à l'économie chinoise. Il s'agissait en gros de rattraper les États-Unis en quelques années, de rattraper l'agriculture américaine en quelques années par le simple acte de la volonté. On trouve dans les textes du maoïsme l'idée que la volonté est sans limite, que la volonté humaine est capable de déplacer des montagnes. Or, le grand bond en avant, donc à la fin des années 50, provoque, on le sait maintenant, entre 30 et 50 millions de morts par famine. Le chiffre qui est retenu aujourd'hui, ce serait à peu près 36 millions de morts, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc là, la question qui se pose sur la question de la grande famine du grand bond, est-ce que c'est une incurie du régime politique, un aveuglement, ou est-ce que c'est quelque chose, c'est Solzhenitsyn qui parle comme ça, lui parle d'un génocide par le travail, ici un génocide par la faim. Est-ce que c'est organisé? Est-ce qu'on laisse faire? Ou est-ce que c'est une incurie, un aveuglement, une maladresse? Un peu violente, la maladresse, mais enfin, une maladresse. Ça se discute, évidemment. En tout cas, on sait qu'à cette époque-là, les greniers à blé étaient pleins. Qu'on ne les distribuait pas aux populations, qui étaient considérés comme cachant du grain, qui étaient considérés comme des ennemis du peuple. De la même façon qu'on cachait du grain, on ne distribuait pas le grain qu'on avait dans des greniers à blé en Ukraine en 1932. Donc on peut discuter du caractère génocidaire de ce grand bond en avant. En tout cas, il y a plusieurs dizaines de millions de morts, dont on, là, eux, ils sont clairement avérés, et que Mao avait quand même tous les éléments pour arrêter ce massacre. Les gens se mangeaient entre eux, hein. On a de grands récits sur le cannibalisme, les gens mangeaient leurs enfants, enfin. C'est inimaginable, quand vous lisez les récits du Grand Bon, on connaît les récits du génocide des Juifs, on connaît beaucoup moins cette littérature chinoise, qui est tout aussi sidérante. Bon, Mao, en 1966, c'est le deuxième événement que je voulais citer, c'est plus connu ça, revient sur le devant de la scène, en 1966, c'est la révolution culturelle, il a été mis de côté après le Grand Bon, ça a quand même été un choc terrible, ça l'a quand même discrédité, mais enfin en 1966, il réussit à revenir au pouvoir, il pratique une épuration à la tête de l'État, en justifiant la lutte contre la bourgeoisie et contre les tendances réactionnaires du régime, et au nom d'un retour à l'idéal socialiste. La jeunesse est très mobilisée, de nombreux intellectuels, de nombreux étudiants sont envoyés dans les campagnes pour rééducation. La révolution culturelle, on le sait, a fait plusieurs centaines de milliers de morts, et on sait également, c'est pas très loin de nous, qu'elle a exercé une influence, même une fascination sur une partie de l'extrême gauche européenne, ce qui me permet de dire, c'est pas un aspect que je vais soulever de manière très détaillée, mais qui est quand même important, que le totalitarisme, ce n'est sans doute pas une simple dérive obscurantiste qui serait imposée par la force, mais aussi quelque chose, une catastrophe, mais qui trouve sa source dans les attentes de la société, dans des attentes populaires, dans des attentes qui sont partagées. J'y reviendrai. Le Cambodge tombe sous la coupe des Khmers rouges en 1975. Le 17 avril 1975, en l'espace d'une journée, la capitale Phnom Penh est intégralement vidée de ses habitants. Acte totalitaire s'il en est. Table rase. Les populations sont déportées dans les campagnes, sont installées dans des conditions inadaptées, sont forcées à travailler à la main, les familles sont séparées. Les professions intellectuelles sont systématiquement éliminées, les médecins, les enseignants, les juristes. L'ennemi vietnamien est vu partout. Quand vous lisez les textes de l'Ankar, de l'organisation, je ne veux pas dire Pol Pot, parce que jusqu'à la fin du régime, personne ne savait que c'était Pol Pot qui était à la tête de cet État. On l'appelait frère numéro un, mais c'est très tardivement qu'on a su, on a su son nom. L'ennemi vietnamien héréditaire est vu partout et règne dans ce régime pendant 4 ans, qui n'a duré que 4 ans, un climat totalement paranoïaque. Une logique raciale. On est dans un régime qui revendique l'héritage du communisme, mais dans un régime qui opère une véritable distinction raciale entre, d'un côté, le peuple ancien, agraire, communautaire, qui est valorisé dans les campagnes, et le peuple nouveau des villes, celui qui a été déporté des villes, de Phnom Penh et des autres villes, et installé dans des conditions inadaptées. Un peuple nouveau, c'est les termes qui sont employés par les idéologues du parti, qui sont donc les gens des villes, qui sont considérés comme individualistes et corrompus, qui sont considérés comme des suppôts du capitalisme. En 4 ans de pouvoir, les Khmers rouges opèrent un génocide qui tue environ un quart de la population. Il me semble qu'on peut quasiment qualifier le régime Khmer d'un régime nazi-communiste. Il y a un croisement des gens, il y a un croisement de l'idéologie. La distinction du peuple nouveau et du peuple ancien, c'est une distinction qui est de nature quasiment raciale. Pour les Khmers rouges, l'habitant des villes, c'est un Vietnamien. C'est quelqu'un qui porte en lui, je dirais, les gènes de l'ennemi héréditaire, enfin, de ceux qui considèrent comme leur ennemi héréditaire, c'est-à-dire les Vietnamiens. On a affaire à quasiment un discours racialiste. La Corée du Nord, enfin, est totalitaire depuis 1948. 3 dirigeants se sont succédés de père en fils, mais le fondateur du régime est considéré comme toujours vivant. D'ailleurs, quand on va en Corée du Nord, on peut y aller, c'est pas facile, faut passer par une agence de voyage de Corée du Nord, par l'intermédiaire de la Chine, et quand on s'y rend, il faut aller rendre hommage au grand chef, au grand leader, donc une statue dorée se trouve sur une place à Pyongyang. C'est obligatoire, le voyage est organisé aujourd'hui, on a le droit d'y aller, ça rapporte quand même des devises à l'État, mais c'est un tourisme un peu particulier, puisqu'on doit rendre hommage au dictateur, on doit se rendre sur les lieux de prédilection. Il paraît que certains dirigeants chinois qui se rendaient en Corée du Nord hallucinaient complètement sur ce qu'ils y voyaient, et même, je ne sais plus, un des grands dirigeants chinois a quasiment exigé pendant son arrivée, pendant son séjour, qu'ils arrêtent ce délire de cette grande statue en or, parce qu'à un moment, ils avaient fabriqué quand même, apparemment, une statue en or massif. Bon, ça a atteint des proportions dans le délire que même, alors, c'est pas les maoïstes, hein, plutôt c'est dans la suite, hein, c'est Deng Xiaoping, et c'est dans une logique qui déjà n'est plus totalitaire. Dans ce pays, donc la Corée du Nord, règne un état de paranoïa. La grandeur du régime est célébrée dans de grandes manifestations. La misère domine. Il n'empêche que de grands travaux architecturaux ont fait de Pyongyang une capitale fantomatique. Ça change un petit peu aujourd'hui. Hein, il y a une classe moyenne apparemment qui est apparue en Corée du Nord. C'est des choses qui sont en train de changer, même si la Corée du Nord se manifeste assez régulièrement qui monte ses muscles avec son arsenal nucléaire. On sait par ailleurs qu'en 1998, l'arsenal nucléaire, ça sert à faire du chantage aux États-Unis pour que les États-Unis donnent de l'argent et donnent du blé, hein, parce que les populations meurent de faim. Il y a eu 2 millions de morts par famine en 1998 en Corée du Nord. L'idéologie du Juche, c'est le terme employé par les Coréens, domine. Cette idéologie affirme l'autonomie du régime, la puissance des masses populaires. Le culte de la personnalité y est à son extrême limite. Tout est centré autour du génie du maréchal gouvernant. L'armée est surdéveloppée, et ça au détriment de l'industrie de la consommation. Dernier point de ce grand 2, le fascisme italien est-il totalitaire? Je vais peut-être devoir sabrer un peu ce point-là. L'Italie, par opposition aux 5 régimes que j'ai désignés, l'Italie n'a pas connu de camp de déportation. Si ce n'est les prisons des îles Lipari, où furent internés les chefs de l'opposition, mais pas des populations dans une extension presque illimitée. Le fascisme italien possède des traits totalitaires, idéologie de l'homme nouveau, il y a eu d'ailleurs une grande influence sur le nazisme, concentration des pouvoirs, ambition de conquête territoriale, mais il ne connaît pas la radicalité des totalitarismes que nous avons décrits auparavant. La répression est forte contre les opposants, mais ce ne sont pas des populations entières qui sont prises pour cible. Par ailleurs, le fascisme n'était sans doute pas spontanément antisémite, mais est devenu antisémite sous l'influence du nazisme à partir de 1938. Pendant l'été 1943, suite aux avancées des Alliés sur le territoire italien, Mussolini est ni plus ni moins que limogé, destitué par le Grand Conseil fasciste, puis arrêté sur ordre du roi. Il sera libéré un peu plus tard par la Wehrmacht et fondera la République de Salo dans le nord et le centre de l'Italie. Il est difficile de parler de totalitarisme en dehors de déportations de masse, puisque ces déportations de masse traduisent sans doute la radicalité idéologique qui est un des traits les plus caractéristiques de ce type de régime que constitue le totalitarisme. J'en viens à mon dernier point, la signification du totalitarisme. Donc là, ce sera davantage philosophique, un petit peu moins historique. Donc au-delà des traits empiriques qu'on vient de mettre en évidence, vous avez vu la diversité, mais qui convergent quand même autour de l'idée d'idéologie, de culte du chef, de terreur, de déportation, au-delà de ces traits empiriques que j'ai mis en évidence, il s'agit maintenant d'interroger ce que j'appelle la signification anthropologique du totalitarisme. Par quoi est-ce structuré un régime totalitaire? Je parlerai d'un fantasme. Comment ce régime se rapporte-t-il aux êtres humains? Comment ce régime se rapporte-t-il à la réalité? Ça correspond en partie au titre que vous trouverez à la suite. Premier point, l'idéologie comme logique d'une idée. C'est une citation d'Anna Arendt, encore une fois. Elle a interprété la notion d'idéologie en disant que c'est la logique d'une idée. Ce n'est pas son sens historique, hein, c'est une notion qui est apparue à la fin de la Révolution française en France, la notion d'idéologie. Ici, elle dit, voilà, bon, je pense que du point de vue étymologique, ça ne convient pas très bien, mais enfin, elle dit que c'est la logique d'une idée. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Le totalitarisme est dominé, dit Hannah Arendt, par une idéologie totale, qui prétend donc expliquer la réalité dans son ensemble. Il ne s'agit pas simplement comme dans un régime démocratique, d'un discours sur les principes. Il ne s'agit pas simplement d'une fiction qui décrirait la société nouvelle à venir. L'idéologie dans un régime totalitaire, elle a des effets extrêmement importants dans la réalité. Elle structure l'ensemble de la vie sociale. D'une certaine manière, dans le régime nazi, les lois raciales, la distinction entre les races, c'est l'alpha et l'oméga de la vie sociale. On sait d'ailleurs que Hitler a toujours donné priorité pendant la Seconde Guerre mondiale sur les opérations d'extermination des Juifs. Il a détourné des moyens militaires pour poursuivre ce génocide. C'est plus important pour lui que gagner ou perdre la guerre, d'une certaine façon. Il revendique que l'extermination des Juifs comme la principale œuvre historique du nazisme. Donc les lois raciales structurent l'ensemble de la vie dans le nazisme, la vie sociale, la lutte des classes, de la même façon, donne tout son sens aux grandes décisions politiques dans les régimes communistes totalitaires. Le guide apparaît à ce titre-là, lui-même, comme le fonctionnaire, j'ai employé l'expression tout à l'heure, comme le fonctionnaire d'une idéologie, de l'idéologie, plutôt qu'un tyran qui ferait un usage arbitraire de son pouvoir. L'idéologie totalitaire, elle est précipitée. Là, j'emploie ce terme dans un sens quasiment chimique. Elle est précipitée dans la réalité, de manière quasiment magique. Par la puissance du verbe totalitaire, il y a une très grande importance accordée à la parole dans les régimes totalitaires. Pas forcément la parole seulement du dictateur. On connaît la parole d'Hitler, mais Staline était un très piètre orateur. La puissance du verbe qui peut être un verbe écrit, aussi bien qu'oral. En tout cas, l'idée du discours. Donc l'idée, c'est que l'idéologie totalitaire est précipitée dans la réalité par la puissance du verbe et surtout par l'organisation totale de la société, par la production d'une unanimité artificielle et par une violence terroriste. L'idéologie, c'est là qu'on voit apparaître la notion de logique d'une idée, l'idéologie totalitaire dit que le monde est devenu un, cohérent, sous l'autorité du chef. Il n'y a plus les méchants et les gentils. Il n'y a plus le bien et le mal. Il n'y a plus les élus et les damnés. Les ennemis, les damnés, les méchants, ils sont destinés à disparaître dans les camps. Ne restera à la fin que le peuple un, le peuple élu. Le peuple qui a retrouvé le chemin de son histoire. Le peuple supérieur, le peuple évidemment sous l'autorité du chef. Le peuple de la race supérieure, le peuple de la société sans classe, du peuple sans classe, sans division interne. L'idéologie, elle déroule une seule et même idée, lutte des races, lutte des classes, jusqu'à ses conséquences ultimes, à savoir l'extermination. Elle est bien ce qu'Hannah Arendt appelle la logique d'une idée. C'est ce qu'on trouve exprimé donc dans le premier texte, le texte numéro 6A de ce grand 3. C'est un texte un petit peu plus difficile à suivre. Bon, je vais peut-être pas tout lire, on va voir. Tout en vidant résolument et cyniquement le monde de la seule chose qui ait un sens pour le sens commun et ses prévisions utilitaires, les régimes totalitaires lui imposent une sorte de sursens. Les idéologies imposent un sursens, une sursignification à l'expérience que chacun peut faire. Que les idéologies ont effectivement toujours eu en vue lorsqu'elles prétendaient avoir découvert la clé de l'histoire ou la solution aux énigmes de l'univers. Elle dit, Hannah Arendt, que ça, c'est pas propre aux idéologies totalitaires, c'est présent dans toutes les idéologies, quelles qu'elles soient. Elle va montrer par la suite ce qui différencie une idéologie totalitaire d'une idéologie qui n'est pas totalitaire. Elle dit qu'une idéologie totalitaire, c'est celle qui prend au sérieux, vraiment au sérieux, ce que c'est qu'une idéologie. Mais dit-elle, dans une idéologie, déjà, il y a la notion de sursens, il y a l'idée d'une interprétation totale de la réalité. C'est ce qu'elle explique après. Par-delà le non-sens de la société totalitaire et sur lui, s'établit le règne du ridicule sursens de sa superstition idéologique. Les idéologies ne sont inoffensives, elles ne sont des opinions arbitraires que tant qu'on ne les prend pas au sérieux. Une fois prises en son sens littéral, leur prétention a une totale validité, celles-ci deviennent les centres de systèmes logiques où, comme dans les systèmes des paranoïaques, tout s'enchaîne de manière intelligible. Je vous l'avais bien dit. Et même obligatoire, dès lors qu'est acceptée la première prémisse. Pour Hannah Arendt, l'idéologie totalitaire, c'est Une fois qu'on a posé une prémisse, on peut dérouler sans aucune difficulté l'ensemble des conséquences qu'elle peut avoir. On passe de la lutte des races à l'extermination, de la lutte des classes à l'extermination. Le sens commun enclin qu'il est à penser de manière utilitaire n'est d'aucun secours contre ce sursens idéologique, dans la mesure où les régimes totalitaires instaurent un monde qui fonctionne dans le non-sens. Seule compte la cohérence. Elle insiste sur cette idée qu'un régime totalitaire, c'est celui qui, au nom de l'idéologie, s'efforce de rendre le monde parfaitement cohérent. Du point de vue pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéologie totalitaire récuse la spontanéité, l'initiative et même la responsabilité au profit de l'obéissance et du fanatisme. L'idéologie totalitaire, elle fait disparaître l'humanité en sa dimension morale. Adolf Eichmann est son modèle d'humanité. Son modèle d'humanité, c'est l'obéissance la plus totale. C'est l'obéissance sans se poser de questions. Cette phrase terrible d'Hitler qui dit en 1933 que la conscience est une invention juive, que la notion même de conscience, de se poser des problèmes de conscience, c'est une invention juive, que l'allemand, le vrai allemand, c'est celui qui obéit, qui aucun moment ne doit avoir recours à sa propre conscience, ne doit revendiquer ses propres cas de conscience. Aucune, je lis le deuxième texte, aucune des idéologies qui visent à donner une explication exhaustive des événements historiques et du passé et à tracer le cours de tous les événements futurs ne peut supporter l'imprévisibilité inhérente à la créativité des hommes, à leur faculté de créer quelque chose de tellement nouveau que personne n'aurait pu le prévoir. Adolf Eichmann, c'est le modèle de l'homme prévisible. C'est celui dont on sait a priori qu'il ne fera rien, qui ira contre l'idéologie. C'est celui qui dit d'emblée « Je n'ai pas à convoquer ma propre conscience, je n'ai qu'à obéir. » Son action n'est plus une action, c'est une réaction, c'est une obéissance. Le dessein des idéologies totalitaires n'est donc pas de transformer seulement, c'est moi qui ajoute seulement, le monde extérieur, ni seulement d'opérer une transmutation révolutionnaire de la société, mais de transformer la nature humaine elle-même. Hannah Arendt affirme ici que l'objectif du régime totalitaire, c'est de transformer la nature humaine elle-même. George Orwell, que je citerai à la fin, disait les choses autrement, créer une espèce d'humanité à cornes, faire en sorte que l'être humain soit comme un animal. Deuxième point, le fantasme de l'unité. Alors là, il faut s'accrocher davantage, c'est encore un peu plus philosophique. Je vais m'efforcer de rendre ça clair cependant, en tout cas je vais essayer de le faire. Le fantasme de l'unité, donc. Toute société humaine est divisée en son cœur. Les différences individuelles, les différences sexuelles, les différences sociales font que toute organisation d'une société est toujours précaire. Toute société, tout régime politique doit faire avec ses différences. Or, ces différences, elles induisent naturellement des tendances centrifuges. On ne sait jamais ce que quelqu'un, par sa différence, est susceptible de faire. Les tendances centrifuges, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à l'autorité, qui échappe au pouvoir. Donc des tendances centrifuges qu'on ne peut jamais totalement contrecarrer. Dans les sociétés prémodernes, sociétés traditionnelles, les individus ont une existence de fait, mais peu d'existence en droit. La question se pose un petit peu moins. Disons que l'unité sociale, elle est assurée par la tradition. Elle est assurée par la répétition concrète et symbolique des mêmes pratiques. Il ne s'agit pas de creuser totalement l'écart entre société moderne et société prémoderne. Ça n'a pas de sens. On sait bien que ce ne sont que des différences de degrés. Que des individus existaient déjà dans les sociétés prémodernes. Ils n'avaient peut-être pas une existence de droit, mais enfin, l'être humain reste un être humain, même dans une société traditionnelle. Il a des tendances centrifuges, là aussi. Simplement, ces sociétés-là assurent l'unité sociale par une répétition, par une tradition. Dans les sociétés modernes, l'unité est plus problématique parce que les individus, les classes, les pouvoirs s'éloignent progressivement les uns des autres, se distinguent les uns des autres et acquièrent une part d'autonomie. Par exemple, sur la question des pouvoirs, on sait que ce qui caractérise la démocratie, c'est en particulier la séparation républicaine du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, séparation des pouvoirs. Claude Lefort, qui sera l'auteur que je citerai à la suite, lui dit que dans la démocratie moderne, il y a une distinction entre ce qu'il appelle des pôles, entre trois pôles, dit-il, le pôle du pouvoir, le pôle du savoir et le pôle du droit. De quoi s'agit-il ? Il appelle ça la différenciation. Le pouvoir, c'est l'exercice du pouvoir exécutif. Le savoir, c'est l'autorité des savants. Le droit, c'est l'autorité des législateurs. Et dit-il, dans la démocratie moderne, ces trois pôles ne réussissent pas à fusionner, sont séparés naturellement. Aucun pouvoir politique ne pourra s'arroger l'exclusivité de la vérité. Aucun pouvoir exécutif ne pourra passer outre la nécessité que sa décision s'inscrive dans le cadre de la loi. Le pouvoir législatif devra aussi faire avec l'idée qu'il y a une part de l'exercice de l'autorité politique qui relève du pouvoir exécutif. Bref, ces trois pôles ne peuvent fusionner. C'est ce que montre Claude Lefort, qui après Hannah Arendt est sans doute le deuxième grand penseur du totalitarisme. Je vais y revenir après. Le totalitarisme apparaît comme un régime qui, à l'intérieur de la modernité, à l'intérieur de cette époque où des différences sont apparues, un régime qui prend le contre-pied de la modernité et de la démocratie en voulant réinstaurer une unité disparue, ou plutôt une unité qui sans doute n'a jamais existé sous une telle forme. L'État moderne, je parle un instant de l'État moderne, concentrant des pouvoirs importants, le régime totalitaire veut faire coïncider cet État avec la société, ou plutôt la société avec l'État. Ce qui n'est possible, j'en ai déjà parlé précédemment, que par une surveillance généralisée. Il s'agit de faire en sorte que cette séparation régime-société ou État-société disparaisse. Que l'État entre, pénètre en permanence la société. Que la société, d'une certaine manière, trouve dans l'État son expression directe et pure. Le totalitarisme vise donc ce que Claude Lefort appelle la dédifférenciation, pour dire qu'on va au-delà de la différenciation induite, inscrite par la modernité. Dédifférenciation des êtres et des instances politiques, dit-il. Les différences étant constitutives des sociétés modernes, les groupes sociaux, les individus, les courants politiques ont acquis une certaine autonomie. Donc les différences étant constitutives des sociétés modernes, on ne peut lutter contre ces différences que par une violence continue, toujours plus poussée. Vous trouverez dans le texte numéro 7, je ne vais pas tout lire, je vais lire que ce que j'ai mis en gras, une analyse détaillée de ce que je viens de décrire. Il y a trois points. En premier lieu, un peu plus loin vous verrez en second lieu, et puis un peu plus loin encore vous verrez enfin. Donc, en premier lieu, le pouvoir s'affirme comme le pouvoir social. Il figure en quelque sorte la société elle-même en tant que puissance consciente et agissante. Entre l'État et la société civile, la ligne de clivage se fait invisible. On dépasse la différence État-société civile. En second lieu, toujours dans le totalitarisme, se trouve dénié le principe d'une division interne à la société, entre les individus, entre les classes. Tous les signes de cette division, qui pourtant n'a nullement disparu, c'est qu'un fantasme, ça n'est qu'une dénégation, dit-il, dénier. Dénier, ça veut dire on nie ce qu'on reconnaît en même temps, ce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître. Tous les signes donc de cette division interne à la société, qui n'a nullement disparu, sont rapportés à l'existence de couches sociales, coulaques, bourgeois, qui proviennent de l'ancien régime, ou à celles d'éléments accusés de travailler pour le compte de l'impérialisme étranger. La nouvelle société est censée rendre impossible la formation de classes ou de groupements dont les intérêts seraient antagoniques. Cette idée de dénégation, c'est que, en fait, pour le régime totalitaire, la société, elle est unie dès lors qu'on a réussi à se débarrasser de ceux qui créent la division. Et on rend responsable une partie de la population de cette division. On ne dit pas que cette division, elle existe nécessairement à l'intérieur de toute société humaine, on dit cette division est la création des ennemis du peuple. Et donc on va faire porter cette responsabilité à une partie de la population. D'où, je dirais, c'est là qu'on trouve l'explication à cette idée que le régime totalitaire, il est naturellement exterminationniste. Il pratique des déportations à très haut niveau parce que c'est bien le sens même la société qu'il présente. C'est en éliminant les ennemis qu'on créera une société vraiment une. Enfin, j'espère que j'ai souligné ça aussi dans votre feuille. Oui. Enfin, un peu plus loin en gras, c'est la notion même d'une hétérogénéité sociale qui est récusée. La notion d'une variété de modes de vie, de comportements, de croyances, d'opinions, dans la mesure où elle contredit radicalement à l'image d'une société accordée avec elle-même. Image d'une société accordée avec elle-même. Ça, c'est le cœur de la théorie de Claude Lefort. Le totalitarisme cherche à créer l'image d'une société en accord avec elle-même. Une société définitivement, résolument unie. Enfin, dernier passage, toujours en gras, un peu plus loin. Or, qu'on considère ces deux moments de l'emprise totalitaire, c'est le 1 et le 2 du début, en fait indissociables, à savoir l'annulation des signes de la division de l'État et de la société, et celle de la division sociale interne, ces deux moments impliquent une dédifférenciation des instances qui régissent la constitution d'une société politique. Il n'y a plus de critère dernier de la loi, c'est le droit, ni de critère dernier de la connaissance, j'appelais ça le savoir tout à l'heure, qui soit soustrait au pouvoir. Tout est concentré entre les mains du pouvoir. Le pouvoir dit la vérité, le pouvoir dit le droit. Plus rien ne lui échappe. On est remonté en deçà, on est allé au-delà, la séparation moderne et démocratique des trois pôles, du pouvoir, du savoir et du droit. Cette observation permet au mieux de repérer la singularité du totalitarisme. Comme Hannah Arendt, il cherche à mettre en évidence l'idée d'une singularité absolue du totalitarisme, qui le différencie totalement et absolument et définitivement des autres régimes de privation de liberté. La terreur totalitaire trouve sa source dans ce que j'appelle maintenant donc le fantasme de l'unité. C'est Claude Lefort à qui je dois cette notion de fantasme de l'unité. L'idéologie voulant à tout prix imposer une cohérence au monde, elle commande non seulement d'éliminer les oppositions politiques, les opposants politiques, ça on reste dans un cadre classiquement tyrannique, mais surtout de faire de groupes sociaux minoritaires ou non des individualités autonomes, des ennemis à éliminer implacablement. Il faut comprendre ainsi la différence entre une prison et un camp. Tout à l'heure, je parlais du fascisme, je parlais des prisons des îles de Paris. Une prison, on sait pourquoi on y entre. En général, c'est après un jugement. Ici, ça n'a pas été énoncé en tant que tel. Ça peut être énoncé. On nous reproche quelque chose de concret. On nous fait porter une responsabilité qui est peut-être mensongère. En tout cas, une responsabilité est imputée. Un camp est plein d'innocents. Un camp est rempli de gens qu'on tue non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont, ou plutôt pour ce qu'ils sont censés être, selon l'interprétation de leur meurtrier. Un prison n'est pas une camp. Un prison, d'ailleurs, c'est un lieu fermé. C'est un lieu qui n'est pas extensible à l'infini. Un camp, au contraire, on peut, à la limite, dans l'absolu, étendre ses frontières presque de façon illimitée. La Sibérie, à ce titre-là, était parfaitement adaptée puisqu'il n'y avait pas de population civile. On pouvait étendre à l'infini l'archipel du goulag de Solzhenitsyn, c'est bien l'idée que c'est une dissémination presque illimitée de l'idée même de camp. Avant-dernier titre, il me reste 10 minutes.
5.
Alors allons-y, ça va être la cavalcade les plaines de Russie. Totalitarisme, politique et démocratie. La politique repose sur un fait, c'est une citation d'Hannah Arendt que j'ai mise ici, là. La politique repose sur un fait, la pluralité humaine. C'est tiré de Qu'est-ce que la politique, qui est un texte de 1950. Qu'est-ce que c'est que la pluralité? Il ne s'agit pas simplement de la multiplicité. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais d'une pluralité d'êtres uniques. Il y en a plusieurs, mais ils sont différents les uns des autres. La politique, elle est la forme la plus poussée de l'action. Je caractérise ici ce que Hannah Arendt appelle la politique. La politique repose sur un fait, la pluralité, et la politique est la forme la plus poussée de l'action. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, non pas de la réaction, mais de l'initiative qui nous rend humains. Deuxième citation, une initiative dont aucun être humain ne peut s'abstenir s'il veut rester humain. Ce qui nous caractérise comme être humain, c'est notre initiative, notre spontanéité. La politique est la forme la plus poussée de l'action, et l'action pour Hannah Arendt, elle vient de nous, mais elle se fait toujours avec les autres. C'est ce qu'elle appelle une action de concert. Elle se fait toujours avec les autres parce qu'elle est une action qu'on fait avec les autres et sur les autres. Le totalitarisme, au contraire, détruit l'action. Il la remplace par la réaction. L'idéologie se substitue à l'action en commandant des mesures qui ne laissent place à aucune initiative. L'idéologie n'exige pas de l'action, elle exige de l'obéissance. Elle détruit la pluralité. Elle fait comme si les hommes ne formaient qu'un seul homme. Le totalitarisme n'est donc pas la forme la plus extrême de la politique. Le totalitarisme est sans doute la fin de la politique, la mort de la politique, la disparition de la politique. Le totalitarisme remplace la politique par ce qu'on peut appeler une ingénierie sociale et prophylactique. Il s'agit de traiter les hommes comme un ingénieur traite des pièces d'une machine qu'il crée. Une ingénierie sociale et prophylactique qui traite les êtres humains comme des masses n'ayant aucune consistance propre. La politique, au contraire, c'est la troisième citation, traite de la communauté et de la réciprocité d'êtres différents. Dans le régime totalitaire, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'êtres différents. À ce titre, j'en ai dit un mot tout à l'heure, il est difficile de parler d'État totalitaire. De nombreux historiens, d'ailleurs, ont admis cette idée. Un historien aussi connu que Jan Kirchhoff, qui est un des grands historiens du nazisme, dit lui-même que la notion d'État totalitaire est une contradiction dans les termes. Il n'y a pas d'État totalitaire. L'État totalitaire, depuis Machiavel, depuis Hobbes, il apparaît comme un facteur de stabilisation, comme un facteur de durabilité, de durée. Au contraire, le totalitarisme, il soumet la société à une révolution permanente, nécessaire à son entreprise de domination totale. Dernier point, on va vite, le totalitarisme psychotique est la réalité. Ce sera ma conclusion, c'est le rapport avec la réalité. Le totalitarisme révèle sans doute sa signification ultime dans le rapport qu'il entretient avec la réalité. L'idéologie totale, on l'a dit tout à l'heure avec la notion de logique d'une idée, impose une cohérence extrême à la représentation de la réalité. Il n'y a pas de place pour une voix discordante, il n'y a pas de place pour une invention, pour un travail de l'imagination ou pour le travail d'un scientifique. Cette cohérence extrême, elle vise à écarter les faits. Dans le régime totalitaire, il n'y a pas de place pour l'expérience. Il n'y a pas de place pour des faits qui ne concorderaient pas avec la fiction officielle du régime. C'est pourquoi l'histoire est sans cesse réécrite. Une des caractéristiques du régime totalitaire, on va parler d'Orwell pour finir, c'est la réécriture en permanence de l'histoire. On fait disparaître sur les photos du régime soviétique les anciens opposants qu'on a éliminés. Surtout pas qu'ils soient encore vivants. L'histoire est sans cesse réécrite, non simplement parce que ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui, mais surtout parce qu'il ne faut surtout pas l'admettre. Dans tout régime politique, ce qui était vrai hier n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai pour tout régime, en particulier pour le régime totalitaire. Simplement, le régime totalitaire ne l'accepte jamais. Il n'admet jamais que les choses ont changé. Il ne faut surtout pas le reconnaître. Parce que le reconnaître, ce serait reconnaître que l'idéologie est faillible et que la vérité est relative. C'est rigoureusement impossible en régime totalitaire. Le totalitarisme récuse l'expérience au profit de ce que j'appelle un idéalisme psychotique, c'est-à-dire la négation de la réalité et l'enfermement dans une fiction. Orwell, je finirai avec lui, a parlé pour décrire cet idéalisme psychotique, c'est un terme un peu technique, hein, vous m'excusez, d'un solipsisme collectif. Un solipsisme, vous savez peut-être ce que ça désigne en philosophie, c'est l'idée que j'existe seul, que la réalité se réduit finalement à ma propre personne, à mes actes de pensée, que rien n'existe si ce n'est moi-même. Solipsisme collectif, c'est dans la bouche d'O'Brien, qui est un des personnages de 1984, c'est-à-dire que la réalité n'existe que dans l'esprit du parti, non pas dans l'esprit d'un individu, mais dans le parti. On va lire le texte de George Orwell, ce sera ma conclusion. L'esprit 1984, donc écrit en 1948, c'est sans doute avec Hannah Arendt, à mon sens en tout cas, le plus grand texte sur le régime totalitaire. Il n'y a pas de caractérisation plus parfaite Moi-même, après des dizaines de lectures de ce texte, je reste toujours totalement éberlué par la puissance intellectuelle dont a fait preuve Orwell dans ce texte. Je pense qu'il décrit comme aucun autre n'a pu décrire ce qu'est un régime totalitaire. Je lis le texte. L'esprit discipliné peut seul voir la réalité, Winston. Donc c'est O'Brien qui est en train de le torturer, hein, qui parle. Vous croyez que la réalité est objective, extérieure, qu'elle existe par elle-même. Vous croyez aussi que la nature de la réalité est évidente en elle-même. Quand vous vous illusionnez et croyez voir quelque chose, vous pensez que tout le monde voit la même chose que vous. Mais je vous dis, Winston, que la réalité n'est pas extérieure. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit d'un individu qui peut se tromper et en tout cas périt bientôt. Elle n'existe que dans l'esprit du parti qui est collectif et immortel. Ce que le parti tient pour vrai est la vérité. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde pas avec les yeux du parti. Voilà le fait que vous devez apprendre, réapprendre, Winston. Il exige un acte de destruction personnelle. Eichmann n'est pas très loin. Un effort de la volonté. Vous devez vous humilier pour acquérir la santé mentale. Ce sera ma conclusion. Cette négation de toute réalité autonome apparente le totalitarisme à un dérèglement psychotique. Rien ne l'arrête. Les millions de morts qu'il produit manifestent cet enfermement. La réalité n'est jamais reconnue. Les régimes totalitaires, non simplement opèrent des génocides, mais nient toujours qu'ils le font. Christian Godin a dit que ce sont des puissances dénégationnistes. Négationnistes, naturellement négationnistes. La réalité n'étant pas reconnue, aucune responsabilité n'a non plus à être assumée par ce régime.
Merci Florent, merci beaucoup. Donc, j'ai beaucoup apprécié ta conférence et je vais donner la parole à la salle. Voilà.
Je voulais savoir pourquoi vous avez dit au début que le totalitarisme
et une invention
en quelque sorte du XXe siècle.
Oui. Alors. Pas... Oui. Effectivement. On peut se poser la question s'il n'y a pas des régimes dans le passé qui ont pu ressembler à ce régime-là. C'est une discussion qu'on a, hein, que les historiens ont. J'ai à la fin de mon exposé, là, essayé de montrer que, d'abord, c'est un régime moderne qui prend position par rapport à ce que la modernité a créé comme réalité sociale, c'est-à-dire des sociétés qui sont naturellement, je dirais, diverses. D'abord, c'est une prise de position par rapport à ça. C'est une forme de réaction à ça. L'idée que la modernité crée des attentes qu'elle ne réussit pas à satisfaire. La démocratie crée des attentes qu'elle ne réussit pas à satisfaire. Et le régime totalitaire, il prendrait position par rapport à ces attentes qui ne sont pas satisfaites en proposant une solution totale. À ce titre-là, il s'agit bien de régimes modernes, de régimes révolutionnaires, et non pas des régimes qu'on serait susceptible d'observer dans toutes les époques de l'histoire. Maintenant, pour continuer ma réponse, on peut tout à fait essayer de trouver dans des périodes plus éloignées des régimes qui, par de nombreux côtés, nous font penser à ces régimes totalitaires. Des régimes d'une violence inouïe, quasiment génocidaire, il y en a eu d'autres, évidemment. À mon avis, cependant, il ne s'agit pas de régimes totalitaires pour la raison que je viens d'évoquer et pour une autre raison qui est la question de l'idéologie. La terreur est peut-être présente, les massacres sont peut-être présents. Il n'est pas sûr du tout que l'idéologie soit présente comme on la trouve dans les régimes totalitaires. Alors, il y a un texte que je trouve intéressant, qui est très peu connu, d'un monsieur que je ne connais pas d'ailleurs par ailleurs, qui s'appelle Jean-Jacques Walter, qui a écrit dans les années 80 un livre qui s'appelle « Les machines totalitaires », où lui va essayer de repérer dans les temps anciens, chez les Incas, en Chine ancienne, des aspects qui font penser par certains côtés au régime totalitaire. Et d'une certaine manière, on ne peut pas ne pas lui donner raison. Il prend un exemple, je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est dans Civilisation d'Amérique du Sud, il dit que le régime, alors c'est peut-être les Incas, je ne me souviens plus exactement, il dit, se mêle de tout, se mêle de la vie privée, se mêle de sexualité, se mêle de toutes sortes de problèmes qui, d'une certaine manière, ne relèvent pas habituellement des logiques politiques classiques. Pour continuer, puis je vais arrêter parce que j'imagine qu'il y aura d'autres questions, la question se pose évidemment par rapport à l'islamisme contemporain. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'aujourd'hui, Daesh représente un type de pensée totalitaire ? Par de nombreux côtés, oui, évidemment. On retrouvera un certain nombre de choses qu'on trouve dans ces régimes. Il me semble, cependant, j'ai été interrogé il y a quelques mois par un journaliste de SLED qui m'a appelé pour me dire, voilà, vous qui connaissez bien les régimes totalitaires, est-ce qu'on peut dire que Daesh est totalitaire ? Bon. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islamisme ou de Daesh, je suis un peu comme tout le monde, j'ai fait avec ce que je connaissais, mais il me semble que dans une religion, il y a quelque chose qui échappe aux principes idéologiques. Il y a quelque chose comme une transcendance qui, d'une certaine manière, n'est pas, je dirais, susceptible d'être entre les mains de l'imagination humaine comme l'est l'idéologie. L'idée d'une lutte raciale, l'idée d'une lutte des classes absolue, je ne suis pas sûr qu'on en trouverait l'équivalent dans les religions. Bien sûr, il y a des dérives fondamentalistes, il y a l'islamisme radical qui peut faire penser à ces choses-là. Il me semble cependant que dans la notion même de califat là, qu'on voit apparaître avec Daesh, il y a quelque chose comme une forme de séparation des instances de pouvoir. Et en gros, pour parler comme les chrétiens, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une fusion totale dans ce type de perspective entre le pouvoir et le savoir. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose qui échappe au pouvoir politique et qui relèverait ici, d'une autorité religieuse. Je ne suis pas certain de moi hein, quand je propose cette interprétation. Il me semble cependant qu'il faut en tout cas faire attention quand on emploie ce terme, en tout cas à ne pas le banaliser. Ce n'est pas tout à fait le sens de votre question, mais je me permets de le rappeler au passage.
D'autres questions ?
Qu'est-ce qu'on peut dire du régime de Vichy qui a collaboré
Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'était il y a une quinzaine d'années, le premier texte que j'ai lu, c'est un texte d'un historien qui s'appelle Yves Chalas et qui a écrit un livre qui s'appelle Vichy ou l'imaginaire totalitaire. Le point de départ de moi, de ma rencontre avec les régimes totalitaires, c'est venu de Vichy. Bon, Hannah Arendt, jamais voulu classer Vichy dans régime totalitaire. On pourrait dire simplement que, comme le fascisme, comme d'autres types de régimes, ils ont des traits totalitaires incontestables, par certains côtés. En plus, on sait que Vichy était quand même sous l'influence très forte du nazisme, donc par de nombreux côtés, il peut faire penser au nazisme. Je ne suis pas certain qu'on trouverait, sans cette influence du nazisme, des traits totalitaires qui serait presque spontané. J'ai l'impression quand même qu'il y a une grande influence du nazisme. Je ne suis pas certain que Pétain, s'il avait pu créer lui-même, par ses propres moyens, un régime politique, aurait créé un régime totalitaire. Je pense qu'il aurait peut-être, pas historien, pas faire de l'histoire avec des si, mais je pense que ça aurait pu davantage faire penser à un régime comme le régime de Franco ou le régime de Salazar. Là, je m'appuie sur ce que Aron dit. Raymond Aron, dans Démocratie et totalitarisme, il distingue les régimes qui politisent les hommes, je ne suis pas sûr que ce soit le bon mot, il dit que c'est les régimes totalitaires, et les régimes qui les dépolitisent, en gros la tyrannie, c'est-à-dire ne vous occupez-vous de vos affaires privées. Le régime qui politise, c'est le régime qui cherche à mobiliser en permanence tout le monde. J'ai l'impression quand même que le système franquiste, le système de Salazar, c'est les exemples pris par Raymond Aron, c'est des régimes de despotisme, je ne sais pas quel terme faut employer, tyrannie plus classique, au service soit d'une idéologie réactionnaire, comme c'est le cas du franquisme, ou encore quelque chose de, vraiment plus tyrannique au sens classique, comme l'est le régime de Salazar. J'ai l'impression, je ne peux pas vous l'assurer, mais que Vichy, par ses propres tropismes, aurait très probablement été un régime de ce type-là, plutôt qu'un régime ouvertement totalitaire.
C'est poser une question. Est-ce que tu as insisté sur l'idée que dans un système totalitaire, au fond, l'État n'avait pas un rôle aussi important qu'on pourrait le penser. Et or, effectivement, l'idée qu'on a souvent du système totalitaire, c'est l'idée d'un ordre qui est soumis effectivement à un pouvoir fort, etc. Et ce qui m'a frappé, enfin moi quand j'ai lu Hannah Arendt, c'était que le système politique nazi était un système qui était en constant mouvement et où il y avait une démultiplication des pouvoirs. Et on n'arrivait pas d'ailleurs à le localiser. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est assez désordonné même, en un sens. Et, mais est-ce que ce n'est propre qu'au nazisme? Ou est-ce que... Parce que finalement, ça c'est vrai, quand on regarde le système nazi, c'est indéniable. Mais est-ce que franchement, quand on regarde les autres systèmes totalitaires que tu as cités, c'est vraiment le cas?
Hannah Arendt, elle parle pour décrire le nazisme d'un système en oignon avec plusieurs couches, on ne sait pas très bien où est l'autorité. Franz Neumann, qui est un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Behemoth, qui est consacré donc au national-socialisme, il décrit le régime nazi comme un régime d'anarchie. Ça peut paraître un peu étonnant, mais il dit que où est le pouvoir, on n'en sait trop rien, il y a des pouvoirs concurrents qui se disputent autour de la personne d'Hitler. Hitler un jour va donner raison à l'un, puis va donner raison à l'autre. Il y a plusieurs types d'autorités qui se croisent, qui se conjuguent, qui se mélangent, on ne sait jamais très bien où c'est. Et en tout cas, c'est loin d'être un système monolithique. Ça, c'est le système nazi. Ta question consiste à dire si c'est vrai pour le nazisme, est-ce que c'est vrai pour les autres? Bon, je serais tenté, je ne sais pas si ça va être satisfaisant, mais de répondre par ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que, je parlais de Yann Kershaw, là, spécialiste du régime nazi, c'est encore le nazisme, mais enfin, l'idée que un État, ça a quand même vocation à stabiliser, je dirais, une relation entre un pouvoir et une société. Ça a quand même vocation à, je dirais, être capable de déceler les différents problèmes sociaux qui sont susceptibles de mettre en question son autorité. Un État, on le sait depuis Machiavel, on le sait depuis Hobbes, ça a quand même vocation à asseoir une stabilité dans une société qui, sans doute par elle-même, risque d'être ingouvernable. Bon. Est-ce qu'on a affaire à quelque chose de ce genre dans un régime totalitaire, qu'il s'agisse du nazisme ou qu'il s'agisse des autres? Et c'est là que tout à l'heure je faisais cette hypothèse que peut-être dans le régime totalitaire, plus que d'État, il faut parler de parti. Que le parti, il n'a pas la vocation de l'État à asseoir une autorité, à créer une stabilité. Il a au contraire vocation à pénétrer sans cesse les arcanes de la société pour la mettre en mouvement. C'est la notion de mobilisation totale qu'on doit à Ernst Jünger. Sous mobilisation totale, l'idée c'est que la société doit être sans cesse en mouvement. Parce qu'une société qui n'est pas en mouvement, c'est une société qu'on ne pourra jamais soumettre à une domination totale. Parce que c'est une société dans laquelle des solidarités traditionnelles peuvent renaître. C'est une société dans laquelle, je dirais, une culture autonome peut renaître. C'est une société qui, d'une certaine manière, échappe au regard permanent du pouvoir. À ce titre-là, je serais tenté de dire que le parti n'est pas un État, que l'État, d'ailleurs, comme structure d'État, a été largement instrumentalisé par les régimes totalitaires, en particulier dans les relations extérieures, mais que un État, normalement, a cette vocation à stabiliser. Qu'au contraire, ces régimes, je l'ai dit en commençant, n'a jamais arrêté, n'a jamais cessé de persécuter et ne pouvait sans doute jamais arrêter de le faire parce que ça fait partie de son ADN, ça fait partie de son essence même. Un régime totalitaire qui cesse, qui arrête, qui, je dirais, décélère, est-ce que ce serait encore un régime totalitaire? La question se pose. Alors, c'est difficile d'en parler pour le nazisme. Il a eu une fin militaire. C'est difficile d'en parler pour les Khmer Rouges. Le Cambodge a été envahi par le Vietnam, c'est la fin des dictatures des Khmer Rouges. C'est peut-être plus facile d'en parler pour l'URSS. L'URSS, est-ce qu'elle est encore totalitaire? Tout à l'heure, je suggérais un mot là-dessus. Est-ce que l'URSS est encore totalitaire au-delà de Staline? Claude Lefort, lui, montre, il étudie, Il étudie le rapport Khrouchtchev de 1956. Il dit Khrouchtchev, c'est quand même une vaste fumisterie. C'est un des principaux criminels du stalinisme. C'est lui qui a pratiqué la répression en Ukraine. Il arrive, il se présente, il dit voilà, ça reste très secret hein, pendant longtemps, mais enfin ça filtre quand même. Staline, c'est le mal absolu. Comment on a pu se laisser berner? Bon, bref, on va se débarrasser du grand ennemi. Bon. Pour Claude Lefort, le totalitarisme se prolonge jusqu'au rapport Khrouchtchev. D'une certaine manière, il s'accomplit même dans le rapport Khrouchtchev. Cependant, ce qui se passe après, en particulier à partir de Brejnev, et même déjà des Khrouchtchev, c'est que, je dirais, la grande épopée totalitaire s'est déjà arrêtée. Il y a la fin du stalinisme, c'est le complot des blouses blanches. Après ça, d'une certaine manière, c'est pas que les déportations s'arrêtent, c'est pas que le goulag ferme comme par miracle. Il n'y a plus de grandes déportations de masse, de population entière. On y envoie davantage des opposants politiques. On sait bien que pendant l'histoire du brejnevisme, on a beaucoup critiqué, en Occident, on a connu cette idée qu'on criminalisait, qu'on psychiatrisait, si j'ose dire, l'opposition politique. Mais finalement, on est plus dans une logique de répression de l'opposition politique qu'autre chose. Sous Staline, il n'y aurait pas eu de dissidents. Les dissidents, ça fait longtemps qu'ils auraient disparu. Et non simplement qu'ils auraient disparu, mais toute trace en aurait disparu. Hein? Quand Solzhenitsyn écrit l'archipel du Goulag, qu'il fait publier en France en 1973, je crois, qu'est-ce que fait Brejnev? Il l'envoie en exil. Ça, sous Staline, il ne se serait pas embarrassé de ce genre de procédé, voilà, qui d'une certaine manière donne une autorité à l'Occident, qui d'une certaine manière maintient la possibilité qu'on critique l'origine de l'extérieur. Dans le stalinisme, bon, je ne suis pas sûr d'être encore à répondre à ta question, mais enfin, il y a quelque chose de bien plus radical que du travail, je dirais, presque classique d'un État. Pour revenir à la question de départ.
Que pensez-vous de l'Iran?
Il y a eu un certain nombre d'ouvrages grand public qui ont été édités, qui ont porté là-dessus. Il y a un livre qui s'appelle Le totalitarisme iranien ou quelque chose comme ça. Bon, il y a un autre ouvrage qui s'appelle Le troisième totalitarisme pour désigner l'islamisme radical. Bon, à mon avis, il n'y en a pas eu que deux avant lui, il y en a eu d'autres. Est-ce que l'Iran est totalitaire? Bon, à mon avis, François Furet a abordé ces questions-là en disant il peut y avoir des degrés dans le totalitarisme. Ça a un mérite, c'est que du coup ça permet de réintégrer des régimes comme le fascisme, peut-être l'islamisme radical des années Khomeini, en disant il y a une forme voilà, de degré, avec peut-être certains extrêmes. Mais il n'y aurait pas une coupure radicale à ce moment-là entre les régimes tyranniques et les régimes totalitaires. Il y aurait toute une série de degrés, il y aurait un éventail à l'intérieur duquel on aurait des pratiques plus ou moins radicales. Pour le fascisme italien, c'est vrai que l'idéologie de l'homme nouveau, elle est très présente. Il y a l'idée d'ailleurs, la statuaire fasciste est très proche de la statuaire nazie. L'architecture fasciste, voilà, il y a quand même de grands travaux qui ont été entrepris qui font penser à ce que font les nazis. Pour revenir à l'Iran, je dirais, la question peut être abordée de cette façon-là, en disant, finalement, que là aussi, il y a des degrés. Que Khomeini... Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'ai lu le petit livre vert de l'Ayatollah Khomeini. Alors, c'est un livre totalement hallucinant. C'est totalement hallucinant. Ça parle de sexualité à tour de bras. Ça pose des préceptes sur tous les aspects de la vie privée. On est en plein délire. On a l'impression qu'on... C'était édité par Jean Edernalier. Voilà. Voilà. Et on se dit, c'est un gag, c'est pas possible. Il dit comment déféquer, enfin bon, il explique tout. Hein. C'est un délire intégral, on se dit, bon, c'est un gag. Bon, non, pas du tout, c'est pas un gag. On pourrait dire, voilà, une volonté d'une emprise totale sur tout ce qu'il y a de plus privé dans la vie privée. De même que les nazis, les soviétiques se sont occupés, vous savez, là, c'est des chambres, faire en sorte que les nazis ont voulu créer quasiment des ateliers de fabrication de l'homme nouveau. On prostituait des femmes, on les obligeait à avoir des relations sexuelles et des enfants avec des hommes considérés comme des ariens. Là, c'est un petit peu la même logique. On s'occupe de tout ce qui est le plus privé dans la vie privée des êtres humains. Donc on pourrait dire, voilà, la logique est la même. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Daesh. Cependant, il me semble que le pouvoir, que la religion pose un problème. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, son autorité vient de Dieu et que ça crée quand même une distance, que ça fait qu'aucun homme n'est susceptible de revendiquer de posséder la vérité par lui-même. Alors, je ne dis pas que ça suffit à protéger les individus. La persécution est radicale. Ça s'appelle les spadarans en Iran, c'est la police politique qui surveille les jupes. Enfin bon, on n'est plus non plus dans les années Khomeini aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même plus de libéralisme qui s'est installé en Iran aujourd'hui. C'est un régime qui connaît des phases de régression, de progressisme. Il me semble quand même que cette idée d'une idéologie religieuse est contestable. Est-ce que la religion peut constituer une idéologie à part entière ? Est-ce qu'il n'y a pas justement dans l'idée de religion l'idée d'un Dieu qui, d'une certaine manière, est celui qui possède la vérité ? Et on ne peut pas, bon, là je me répète un peu, hein, on rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans un régime totalitaire, cette séparation elle n'est plus possible. Je veux dire, le chef, il est le fonctionnaire de l'idéologie. Il ne prétend pas parler en son nom propre. Il ne dit pas que c'est un Dieu, il dit que c'est la logique de l'histoire. Il dit que les idéologues totalitaires sont des gens qui prétendent parler quasiment au nom de la science, hein. Tous autant qu'ils sont, le communisme, le nazisme, ils prétendent faire de la science. Science qui, pour nous, évidemment, apparaît comme complètement absurde. Mais ils prétendent faire de la science. À aucun moment, ils ne font référence à un esprit transcendant, à un être transcendant. Ils ne parlent à proprement parler de religion. Il me semble quand même qu'il y a cette différence qui constitue un écart et qui ferait que les régimes de type iranien vont quand même plus se rapprocher d'une certaine manière des tyrannies, même si ils sont plus radicaux. Mais ce qui manque dans ces régimes, encore une fois, c'est les camps. On va trouver des prisons, même très étendues, on va sans probablement pas trouver de camps. Et à ma connaissance, il n'y a pas de camps en Iran, et il n'y aura probablement pas de camps de déportation par millions dans les islamismes radicaux qui nous guettent aujourd'hui.
Oui, question.
Oui, sur un autre plan, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui peut paraître très inquiétant, à savoir que le totalitarisme pouvait être une réponse à une aspiration du peuple. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, une démocratie rencontre une personnalité avec un ego démesuré, exacerbé, est-ce qu'on peut basculer ? Quelles sont les limites et J'ai une forme de réponse, mais je voudrais entendre la vôtre.
Vous voulez bien me donner la vôtre avant ? Ben, ça m'intéresse quand même. Je la donnerai après.
Oui.
D'accord. Oui, j'ai effectivement évoqué ça. Anna Arendt, elle ne cesse de parler de ça. Bon, je fais beaucoup référence à Anna Arendt, hein, ça m'a beaucoup inspiré. C'est un auteur qui a été finalement assez discrédité. On lui a reproché, je vous ai dit, son manque de fiabilité historique. Elle parle avec les documents de son époque. Hein. Je trouve qu'avec les documents de ses époques, elle a quand même donné un souffle très important à ses études. Or, Anna Arendt, elle nous dit que effectivement, ces régimes, ils s'enracinent dans des attentes des populations. Mais elle ne dit pas n'importe quelle population, elle dit dans des situations de crise sociale majeure. Elle dit, voilà, un régime totalitaire, il s'enracine dans des attentes. Tout à l'heure, j'y ai fait un petit peu référence en disant que la modernité avait fait des promesses, que la démocratie libérale moderne avait fait des promesses qu'elle n'était pas toujours capable de tenir. Et l'idée, c'est que le régime totalitaire, d'une certaine manière, il répond à ça. Ce qui fait que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'y a pratiquement pas de régime totalitaire qui n'ait eu sa cour, qui n'ait eu ses soutiens. C'est peut-être moins vrai pour le Cambodge, par exemple. C'est très vrai pour le nazisme. Alors Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par les élections, il est arrivé au pouvoir parce qu'il a gagné les élections et qu'il a été nommé chancelier. Mais enfin, quand même, sa popularité n'a cessé de s'accroître tout au long des années 20. Il n'est pas arrivé au pouvoir tout de suite, il est arrivé par étapes. Il a reçu quand même un soutien populaire. Dans l'histoire du nazisme, il y a eu des hauts et des bas. Hein, quand quand Goebbels dit, je crois que c'est dans un cirque en 1933, devant une population sale en liesse, il dit « Nous voulons la guerre totale ». Bon, il s'agit là de réanimer une flamme qui est en train de s'éteindre. Pour le régime, c'est pas gagné une fois pour toutes. La question que vous me posez, c'est est-ce que si on avait affaire à quelqu'un qui était suffisamment charismatique et avec des attentes suffisamment fortes, est-ce qu'on pourrait, d'une certaine manière, est-ce qu'un peuple pourrait se donner à lui et se mettre à lui-même des chaînes ? Bon, ça, du point de vue, je dirais même d'une tyrannie classique, c'est toujours possible. Hein. La Boétie a écrit sur la servitude volontaire. Après tout, tous les régimes qui violent les libertés trouvent des soutiens. Pinochet, assez nostalgique. Bon. Je serais tenté de dire un régime totalitaire, c'est quand même, n'étant quand même pas un régime parmi d'autres, créant quand même une violence absolument inouïe, s'il doit avoir un enracinement social, c'est sans doute pas simplement un enracinement dans les attentes, je dirais, classiques d'une société. C'est pour ça qu'Hannah Arendt insiste sur cette idée de crise sociale majeure. Elle dit d'ailleurs que ce sont des sociétés de masse. C'est sa thèse, hein. Elle dit que ces masses sont les produits de la modernité capitaliste où on a affaire à des personnes qui sont progressivement déracinées de leur campagne, qui s'agglomèrent en ville, qui connaissent le chômage, qui connaissent la désocialisation. Et elle dit c'est ça, le soutien social à la mise en place des régimes totalitaires. Elle dit pas que c'est inévitable. Elle dit, le livre « Les origines du totalitarisme » cherche des origines. Elle montre que c'est un phénomène de cristallisation qui opère dans certaines situations particulières, qu'aurait d'ailleurs aussi bien pu ne pas cristalliser. Elle cherche pas à dire que c'était inévitable et que c'était déterministe. Elle cherche des origines. En tout cas, une des origines qu'elle évoque sont les sociétés de masse, et des sociétés de masse qui sont en crise massive, en particulier, c'est pas pour rien qu'elle s'intéresse d'abord au nazisme et à l'URSS, c'est-à-dire des sociétés qui ont été totalement déstructuré par la Première Guerre mondiale. Là, on va croiser les thèses de George L. Moss, qui est un historien du fascisme en particulier, qui a écrit un livre qui s'appelle « La brutalisation des sociétés européennes », où il cherche, dans la Première Guerre mondiale, les sources principales de la montée des régimes totalitaires, c'est-à-dire des sociétés qui sont complètement déstructurées. Qu'il s'agisse de la société allemande qui a perdu la guerre, à qui on fait quand même porter une responsabilité lourde, qu'il s'agisse de la société russe, qui sort de la guerre avec la fin quand même d'un régime millénaire, qui sort dans un état de déstructuration complète de ses structures politiques. Et voilà, je dirais, les conditions sociales, les conditions politiques sont remplies pour que de grands pouvoirs charismatiques trouvent un écho dans les populations. Il ne s'agit pas de dire que, dans des conditions, je dirais, même de crises relativement limitées, comme toutes nos sociétés sont presque naturellement en crise, qu'un régime totalitaire pourrait s'imposer. Je pense qu'on a quand même, dans nos structures politiques, de quoi résister à cela. Mais enfin, on ne peut jamais prédire l'avenir. En relisant le passé, l'idée, c'est qu'il y a peut-être des situations dans lesquelles des crises sociales majeures créent les conditions qu'un peuple se donne à un dictateur sans forcément savoir à qui il se donne. Hein. Je ne suis pas sûr que Hitler, si les élections avaient lieu en 1938 ou en 1940, que tous les Allemands voteraient comme un seul homme. Mais évidemment, la question ne se pose plus à ce moment-là. Mais j'attends votre réponse.
Ça va être difficile parce que vous avez remarquablement développé ce que moi j'aurais répondu oui, tout est possible.
D'accord. J'espère que tout n'est pas possible. Et d'autant plus que l'expression « tout est possible », vous savez, dans Hannah Arendt, à la fin du système totalitaire, elle dit « le système totalitaire, sa devise, c'est « tout est possible ». Tout est possible. Tout est possible. Parce que, et elle dit « c'est dans les camps que ça a lieu ». Tout est possible.
Bon, je pense qu'il faut clore parce que nous avons dépassé l'heure. Et encore merci à Florent.
Merci de votre accueil.